Voilà, donc c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est le troisième cours de théologie de la liturgie. Je dis tout ça sans prétention parce que je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus capables que moi. Je fais ça, c'est vraiment par obéissance, parce que Mgr Joseph le demande. Moi, je ne vais pas faire tout ça, c'est un peu trop ambitieux. Et d'autant plus que mon ambition est de ne pas seulement décrire les sacrements que tout le monde connaît très bien, en principe, mais de dégager l'esprit des sacrements, le sens des sacrements, et donc effectivement la théologie des sacrements, ce qui m'intéresse, c'est parce que vous avez des personnes qui sont des personnes très 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 savantes, et qui sont capables de vous présenter l'histoire des sacrements. On trouve ça dans beaucoup de livres de très bonne qualité, mais c'est tout à fait... c'est une science, si je peux dire, l'histoire des sacrements. Et moi, ce n'est pas ce que je fais, c'est plutôt donc, la théologie des sacrements, c'est-à-dire quel sens est-ce que ça a, et plus profondément, quel événement est-ce que cela constitue ? Je fais une différence importante ici. La question du sens, si vous voulez, c'est une question, je pense que c'est une question philosophique. Je ne suis pas sûr que ce soit une question théologique. La question du sens, c'est une question philosophique à laquelle l'intelligence humaine, la réflexion humaine cherche à répondre. Voilà, que sens ça a, qu'est-ce que ça signifie. Non, c'est important, c'est théologique aussi, si vous voulez. Mais ce qui est vraiment théologique, c'est la question de la présence. Je pense que la différence est assez importante et que souvent, nous les théologiens, ce que je trouve drôle parce que je ne vais quand même pas me considérer ou me présenter comme théologien, ça ne va pas être totalement ridicule. Quoique le ridicule ne tue pas, mais ce n'est pas une raison pour prendre des risques. On ne doit pas prendre le risque de mourir bêtement par excès de ridicule. Donc, les théologiens sont quand même des personnes qui s'intéressent bien sûr au sens, à la signification, ce que je fais aussi, d'ailleurs, de l'interprétation. Il y a quand même un sens. Après tout, les sacrements sont de l'ordre du langage. Un sacrement, ça parle, ça dit quelque chose. Mais disons que je pense que théologiquement parlant, la question la plus profonde, c'est la question de la présence. C'est-à-dire, qui est là ? Y a-t-il quelqu'un, d'ailleurs ? Après tout, on peut poser la question. J'ai des amis qui se pensent chrétiens et qui pensent qu'il n'y a personne. Qui pensent que ce que nous appelons, nous, sacrements, ce sont des gestes symboliques au sens faible du terme, et qu'en fait, il ne se passe rien, et il n'y a absolument personne. C'est rien, ce sont des signes qu'on fait pour se rappeler des événements qui ont eu lieu dans le passé. Mais c'est tout, il n'y a rien et il n'y a personne. Personnellement, je pense très différemment de cela parce que je suis un sujet de l'Église orthodoxe et également par expérience. Parce que l'expérience sacramentelle nous fait justement ressentir la présence. Alors, bien sûr, quand on a dit ça, on a également des critiques qui vous disent « Ah, il a dit le mot ressentir, qu'est-ce que c'est que ce ressenti ? Qu'est-ce que vous faites là avec votre subjectivité, vos sentiments ? De quoi est-ce que vous pouvez parler ?» Or, en fait, il y aurait une réflexion à mener là-dessus, sur peut-être que je le ferai, peut-être qu'on peut consacrer du temps uniquement à ça, sur la valeur du ressenti dans l'expérience de l'Église, dans l'expérience sacramentelle. Après tout, pourquoi pas ? Peut-être oser parler du ressenti comme d'une réalité sérieuse. Et je peux en dire peut-être deux mots, parce que forcément, ça va tourner autour de ça. Je sais que j'ai trouvé dans la dogmatique de Bertrand Hillowe, qui est, comme vous savez, une référence permanente de ma petite réflexion personnelle. Et il parle justement de ça, il dit que l'expérience chrétienne, si vous voulez, c'est pas que c'est au-delà, mais c'est... L'expérience chrétienne n'est pas prisonnière, disons, d'une opposition entre sujet et objet, qui est à nouveau une une opposition de type philosophique, de type scientifique à une certaine époque, quoique maintenant les savants ne fonctionnent plus de cette façon-là. Mais en tout cas, la théologie n'est pas asservie à l'opposition du sujet et de l'objet. Les théologiens savent depuis très longtemps, en fait, qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a que des sujets déjà. Hein, que, par exemple, Dieu n'est pas un objet. Dieu est un sujet auquel je m'adresse ou qui s'adresse à moi. Donc, on parlera des personnes humaines, parlent d'intersubjectivité divino-humaine. Et même le monde, les arbres, les oiseaux, les animaux dont nous parlions un instant, parce qu'on parlait des chats, les créatures ne sont pas seulement des choses, elles ne sont pas seulement des objets, comme je le dis aussi souvent que je peux, mais ne sont pas forcément des sujets non plus, il ne faut pas exagérer, mais derrière ces créatures, derrière un arbre, derrière un chat, derrière une pierre même, derrière une montagne, derrière la mer, enfin, tout ce que vous voulez, il y a quelqu'un. Et donc il y a finalement donc une indication de la présence du grand sujet qu'est le Créateur. Donc finalement, on ne peut pas vraiment parler d'une relation sujet-objet, vous voyez, on peut parler d'une relation de sujet à sujet, on va parler d'intersubjectivité, mais c'est certainement la façon, de mon point de vue, je veux bien qu'on le conteste, hein, mais de mon point de vue, c'est la façon la plus intéressante de parler, et même du point de vue scientifique, du point de vue de la cosmologie, du point de vue de la physique, de la chimie, tout ce que vous voulez, c'est l'intersubjectivité qui est intéressante, parce que un savant chrétien, un médecin chrétien, un chercheur chrétien, un chimiste chrétien, un physicien chrétien, un, je sais pas quoi, un vétérinaire chrétien, si vous voulez, eh bien, il sait qu'il y a quelqu'un, que cet animal qu'il est en train de charcuter avec respect, c'est une créature de Dieu, et que Dieu est derrière cet animal qui peut-être souffre, mais que ce bon vétérinaire est en train de se soigner. Il y a quelqu'un derrière l'animal, il y a quelqu'un derrière la pierre, le chimiste, le physicien sait que derrière cette eau qu'il a dans une analyse des composants, H2, deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, pas seulement ça, l'eau. L'eau, c'est l'eau de quelqu'un, c'est l'eau d'ailleurs à quelqu'un. Et ceci n'est pas contraire à la mentalité scientifique. C'est quelque chose qui inclut l'expérience scientifique, qui assume l'expérience scientifique. Et nous ne faisons pas non plus d'opposition entre science et foi. C'est paraît vraiment tellement dépassé comme problématique. Moi, j'ai des amis qui sont des savants et qui sont des hommes de foi, je vous assure, qui vivent leur relation à la matière, par exemple, comme une relation à la matière donnée par quelqu'un, là aussi, vous voyez. Et alors, évidemment, ça pose de certains problèmes. Par exemple, j'ai un jeune ami qui fait des études de médecine, et donc on leur fait faire de l'anatomie, des dissections. Alors je lui dis de garder toujours la prière, de prier toujours pour la personne dont on est en train de dépecer le corps, parce que ce corps n'est pas une chose, il est le corps de quelqu'un. Peut-être que cette personne a été baptisée en plus, on n'en sait rien, mais c'est possible. Et par conséquent, donc, il y a quelqu'un dans ce corps, derrière ce corps, il y a un sujet. Ce corps qui est là, proposé à la dissection, c'est le corps de quelqu'un, ce corps est un sujet. Donc, vous voyez, on est dans cette catégorie-là. C'est pour ça que la question du ressenti a une valeur. Parce que si je ressens, c'est parce que je suis un sujet. Alors, c'est subjectif. Parce que c'est subjectif, c'est pas une insulte, quand même. C'est pas parce qu'on dit que c'est subjectif qu'on va balayer tout. La subjectivité, c'est extrêmement important. Même un savant, quand il envisage une loi cosmique, il l'envisage de manière subjective. C'est lui qui l'envisage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui la trouve. Il n'est pas un objet insensible et imperméable. Il n'est pas un robot. Le savant n'est pas un robot. Le chercheur n'est pas un robot. Le médecin n'est pas un robot. Le chimiste, le physicien, ce ne sont pas des robots. Ce sont des sujets. Des sujets qui appréhendent la réalité d'une manière subjective. Alors le ressenti, évidemment, quand on dit, on par le ressenti, on fait allusion à des dimensions de la subjectivité qui sont évidemment d'ordre affectif, d'ordre émotionnel, d'ordre psychique, d'ordre physiologique aussi. Dans le ressenti, il y a un ressenti physique, mais qu'est-ce que vous voulez? Le sujet, quand le sujet appréhende une réalité, il l'appréhende de manière globale. Donc là, notre manière de défendre la subjectivité et le ressenti dans le domaine de la connaissance, c'est bien d'une anthropologie, qui est l'anthropologie biblique et l'anthropologie patristique, laquelle considère l'être humain comme un tout, et donc qui ne considère pas comme indigne de l'être humain de participer à l'expérience de la connaissance de façon corporelle, de façon psychique, avec tous ses sens et avec toute sa profondeur, toute sa sensibilité. Bon, alors bien sûr, nous apprenons dans la tradition chrétienne à canaliser l'émotion ou à la transfigurer par la prière, à la mettre à sa place. Nous apprenons par exemple à prier sans pensée et sans représentation, ce qui est typique de la spiritualité des saints-pères, justement pour être capable d'une expérience dans laquelle l'émotion, par exemple, ne prend pas le dessus. Nous avons aussi, dans notre conception de l'icône, l'iconographie, une façon aussi de canoniser, si je peux dire, la sensibilité, de façon à ce qu'elle ne devienne pas envahissante, que la sensibilité, la beauté, soit au service de la vérité, et non pas, elle ne soit pas là pour occulter la vérité. Mais, donc la tradition iconographique a beaucoup réfléchi là-dessus, a beaucoup dit de vérité importante dans ce domaine-là, et la musique liturgique elle-même, vous savez très bien qu'en principe, dans nos églises, le chant liturgique, même s'il il appartient évidemment au ressenti, appartient à un ressenti qui est gouverné par des canons, hein, et des canons, disons, qui ne sont pas seulement l'exclusion des instruments, parce qu'on le considère comme contraignant, comme nuisible, disons, au chant, mais également on exclut certaines formes de chant qui seraient trop émotionnelles, trop affectives, qui seraient trop esthétiques, qui couvriraient la parole de Dieu au lieu d'être à son service. Donc il y a un ressenti, et ce n'est pas n'importe quel ressenti, mais il y a un ressenti qui fait que l'ensemble du composé humain, corps et âme, ou corps, âme et esprit, si vous préférez, est engagé dans le processus de connaissance, d'autant plus que, du point de vue anthropologique, Saint-Irénée, par exemple, dit que l'ensemble du composé humain est traversé, si je peux dire, par la grâce du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure ni le corps, ni même l'affectivité d'une participation à la connaissance, parce qu'on ne peut pas les exclure d'une présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous voulez, pénètre l'ensemble de l'organisme humain et le nourrit, le transfigure par la grâce. C'est la base de la vie sacramentelle, en fait. Donc, on est quand même dans le sujet. Qui est le sujet de la vie sacramentelle et de l'expérience sacramentelle de l'Église. C'est pour ça que je dis que notre expérience sacramentelle nous permet d'affirmer qu'il y a quelqu'un. Ça, nous le savons, par expérience. L'expérience de la crainte de Dieu, par exemple, dans la liturgie, dans nos églises, c'est quelque chose de très important, là. Il faut lire les livres de Rudolf Otto, par exemple, sur le sacré, pour voir les pages qui consacrent justement à la crainte. La crainte est un sentiment très très fort qui entre dans l'expérience religieuse universelle. Et ça, c'est du ressenti. On ressent une très grande crainte, on sent qu'il y a quelqu'un qui est présent. Et notre sensibilité profonde devient muette, hein, tellement elle est impressionnée par cette présence peut-être cachée, peut-être discrète, peut-être mystérieuses en tout cas, vous voyez. C'est pour ça qu'on appelle les sacrements des mystères aussi. Alors, ça ne veut pas dire seulement des énigmes policières, comme le mystère de la chambre jaune, je ne sais pas quel roman extraordinaire, mais des mystères dans le sens où il y a une réalité, il y a une présence cachée qui se manifeste à travers des signes visibles, et notre intelligence, notre sensibilité, notre esprit, notre cœur, notre corps lui-même ressent la réalité de cette présence. Et en fait, il y a certaines expériences religieuses, peut-être pas trop comme chez les chrétiens, où les hommes ont été, en tout cas autrefois, terrifiés par les manifestations cosmiques de la divinité. Et même chez les animaux, par exemple, je me rappelle de ça, je pense que l'animal a une espèce de sentiment confus, si vous voulez, de quelque chose de terrible. Je me rappelle très bien d'un chien que nous avions, et qui, quand il y avait de l'orage à la maison, elle était très très malheureuse, elle commençait à monter et descendre plus les escaliers de la maison. Et si on la prenait pour la mettre sous une couverture pour qu'elle ne voit pas les éclairs, elle sortait de cette couverture, elle ne voulait pas y rester parce qu'elle voulait absolument voir. Mais elle était terrifiée par les éclairs. Et je me rappelle de l'avoir observée, j'ai beaucoup souffert pour elle, j'avais beaucoup de compassion, parce qu'en fait elle souffrait beaucoup de peur en fait. C'était plus de la peur que de la crainte, quand même pas trop attribué aux animaux, si vous voulez. Mais elle était terrifiée par une puissance extraordinaire qui s'est manifestée par le bruit, par les éclairs et par le vent. Et elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder cela. Elle préférait, je ne sais pas comment dire, je n'arrivais pas à la cacher sous les couvertures. Elle ressortait absolument pour voir ça. Alors ça, avec tremblement, donc il y a quelque chose de physique, quelquefois, dans le ressenti. Et vous savez, quand on se trouve face à des grands cataclysmes, des tsunamis, des montagnes qui s'effondrent, des immenses incendies incontrôlables comme nous avons eu cet été, nous sommes terrifiés par des forces cosmiques qui nous dépassent totalement et qui nous font craindre la mort à chaque instant. Donc c'est... Alors, bien sûr, notre ressenti n'est pas toujours de cet ordre-là, mais il peut y avoir quelque chose de cela dans le ressenti religieux, dans le ressenti face au mystère. Il peut y avoir une espèce de terreur devant la mort. Et regardez dans l'Évangile comment certains apôtres ont été terrassés par les manifestations de la divinité du Christ. Quand il parlait à la mer, il calmait les flots d'une parole. Les apôtres étaient terrifiés. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot terrifié ou terrassé? Ce sont des mots dans lesquels il y a le mot terre. C'est-à-dire que la terreur religieuse, c'est le mot, les Grecs ont un mot pour ça, ils appellent ça le thambos. La terreur religieuse, c'est quelque chose qui te jette à terre. Je vous rappelle une chose que vous connaissez parfaitement, et qui est que les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont suivi le Christ sur la montagne, ils ont été terrifiés au sens propre du mot, terrassés par ce qui se présentait à eux. C'est-à-dire le ressenti qui était le leur à ce moment-là était un ressenti qui dépassait même leur force. Et j'ai vu l'autre jour, je le signale, il y a une très belle exposition des icônes de Léonie Ouspensky à Paris, Quai Branly, au Centre culturel russe. Et il y a beaucoup d'icônes, elles sont souvent pas très grandes, les icônes de Léonie Ouspensky, quelquefois de taille assez modeste. Et j'étais monté, parce qu'il y a deux étages dans cette exposition, j'étais monté à l'étage supérieur, puis je regardais, je suis redescendu à l'étage inférieur, et j'ai rencontré des amis qui m'ont dit « Est-ce que tu as vu l'icône de la transfiguration là-haut ?» Je leur ai dit « Non, je n'ai rien vu du tout. » Moi, j'étais un petit peu ballot, parce que n'ayant pas vu cette icône, je ne savais pas quoi dire pour ma défense. Alors j'ai dit « Mais je vais remonter et voir cette icône. » Effectivement, il y a dans un coin, au deuxième étage, à droite, pour ceux qui veulent voir cette exposition, à droite, pas très bien, pas très visible, une icône de la transfiguration, mais qui n'est pas bien grande, elle va correspondre à un petit format A4. Mais, puisqu'on m'avait dit de la regarder, je l'ai donc regardée, je me suis approché, j'ai revêtu mes lunettes, qui est un instrument indispensable, et donc j'ai pu voir comme cette icône. Et alors, ce qui est très intéressant cette icône, c'est justement la chute des apôtres. Je crois que je n'ai jamais vu sur une icône de la Transfiguration des apôtres tomber à la renverse d'une façon aussi catastrophique, aussi vertigineuse, je dirais aussi dangereuse. À mon avis, normalement, ils auraient dû se fracasser la tête, le squelette, à tomber. Ils tombent vraiment, ils tombent de manière vertigineuse, vous voyez. Et c'est très impressionnant. Je n'avais jamais vu l'icône traitée avec une telle violence. Mais c'est très beau, la violence. La violence. Mais oui, pourquoi pas la violence? Il y a des temps pour être non violent, mais il y a des temps pour être violent ou pour assumer la violence. Il y a une certaine violence dans la création, et il y a une certaine violence dans les manifestations de la divinité. Il y a une violence de l'amour, par exemple. C'est ça qui nous attend au jugement. C'est pour ça que nous craignons, nous redoutons beaucoup, beaucoup, beaucoup le jugement, ce qu'on appelle le redoutable tribunal du Christ dans la divine liturgie, parce que nous appréhendons la violence de l'amour de Dieu. C'est laquelle violence? C'est la violence, figurez-vous, c'est la violence de la douceur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est, pour l'homme, pour celui qui s'en approche, est insupportable, tellement sa douceur est ressentie par nous, en tout cas, comme violente, comme insupportable, l'insupportable douceur de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a aussi du ressenti, là, vous voyez, il y a quand même, j'entends encore l'apôtre Pierre dire « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur, éloigne-toi de moi ». C'est fou, quand même. Est-ce que la prière ne sert pas à dire plutôt « Approche-toi de moi, laisse-moi t'approcher », tout ce qu'on dit dans la prière? L'apôtre Pierre, non, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, voyez. Donc, je parle ici de ce ressenti qui nous fait, qui atteste, c'est difficile, mais qui atteste à notre cœur, qui atteste à notre conscience, qui atteste à toute notre vie, la présence de quelqu'un dans tel sacrement, dans tel événement de la vie, pas seulement dans le sacrement de l'Église, je l'ai dit, l'expérience sacramentelle, elle est proposée au large même des limites visibles de l'Église, et nous attestons la présence de celui que nous apprenons Seigneur. C'est le Seigneur. C'est très beau, par exemple, on a cette expression-là dans l'évangile, c'est le chapitre 11 de l'évangile selon saint Jean, quand Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, sont en train de pleurer, sont très malheureuses parce que leur frère est mort, et si je me souviens bien, la première y va, je crois que c'est Marthe qui va en premier, et puis ça, elle revient et elle dit à sa sœur, le Seigneur est là et il t'attend. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique, le Seigneur est là et il t'attend. Donc elle a attesté cette présence, bien sûr, elle l'avait vu de ses yeux vus, mais c'était cette phrase-là, cette expression-là, qui atteste la présence du Seigneur et son attente et son invitation, c'est quelque chose de magnifique. Alors justement, donc je suis content de prendre le sujet de cette façon-là, parce que ce soir, j'ai pensé, en continuant sur cette lancée de la théologie du sacrement, de la façon la moins formelle possible, la plus existentielle possible, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, si vous en rappelez, le premier cours de cette année, j'ai pensé m'approcher quand même d'un exemple très, très précis, très concret, qui est l'exemple du Saint-Baptême. Pas rester dans les généralités tout le temps, on peut entrer dans quelque chose qui est quand même peut-être plus concret, plus accessible aussi, mais je tiens vraiment à l'aborder d'une manière, à partir de l'expérience, à partir du vécu. Je tiens à signaler quand même un livre dont je n'ai pas parlé, qui est très, très bon et très utile, dans lequel le livre de Jean-Paul Larchet, que j'ai apporté ce soir, peut-être le montrer pour que tout le monde le voie, comme on dit, le voir. Donc ça s'appelle La vie sacramentelle. J'ai ajouté à la bibliographie que j'ai déjà donnée. La vie sacramentelle, c'est publié à Paris aux éditions du Cerf en 2014. Donc c'est déjà un livre qui a quelques années. Et je vous y renvoie parce que je pense que c'est un livre qui est vraiment très 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 complet et qui nous donne les bases, nous donne les informations dont nous avons besoin et qui donne comme quelques principes élémentaires pour ce qui est de la vie sacramentelle en général. le rapport peut-être tout simplement au premier, pas l'introduction, mais le premier chapitre de ce livre, qui s'appelle le premier chapitre s'appelant les mystères ou sacrements, source au pluriel de la vie spirituelle du chrétien. Donc ici, donc c'est une, ça sert d'introduction si vous voulez. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui peuvent nous servir pour aborder les sacrements. Et après ça, donc il envisage bien sûr le baptême, etc. Alors, donc vous reverrez ça. Je peux vous en lire quand même un mot. D'abord, il donne une explication en note 1. Il donne une définition du terme mystère à laquelle je vous renvoie. Vous verrez, c'est assez complexe. C'est plus complexe que ce que j'avais dit. Encore que ce que j'avais dit était très intéressant. Mais c'est beaucoup plus complet ici dans ce livre de monsieur Larchet. Alors, il y a plusieurs points qui sont intéressants, qui sont nécessaires à connaître. Nature et fonction des sacrements, la dispensation de la grâce par les sacrements. Mais ça, la dernière fois, le cours précédent, nous avons parlé, je crois, toute l'heure de cette question de la grâce. Je n'y reviens pas, je ne vais pas revenir sur tout. Ensuite, l'union d'un contenu invisible et d'une forme visible, les ministres des sacrements, le fondement des sacrements, le nombre des sacrements, la dimension communautaire des sacrements, la dimension personnelle des sacrements, la dimension thérapeutique des sacrements. Vous voyez, donc il y a plusieurs chapitres dans ce chapitre qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants. Alors moi, je voudrais d'abord, avant de m'approcher quand même du baptême, enfin, du rituel du baptême, hein, si vous voulez, quand même, c'est bien de partir, comme je le fais, du vécu et de l'existentiel, mais après, il faut quand même entrer un petit peu dans la réalité du sujet. Mais avant ça, parce que ma méthode normande consiste à tourner autour du pot, je voudrais mettre en avant quatre points. Oui, trois points qui sont importants et qu'à mon avis on retrouve dans tous les sacrements et que je présente. On retrouverait ça dans tous les manuels qu'on a, bien sûr, toute la bibliographie que je vous ai citée, vous le retrouveriez. Mais moi, j'ai plaisir à mettre ces éléments-là en avant parce qu'ils me paraissent des références. D'abord, le premier de ce point, qui est un point général concernant les sacrements, je crois en avoir déjà parlé, mais il est nécessaire d'en parler à nouveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension mystagogique des sacrements. Alors, vous allez me dire, mais vous en avez déjà parlé, c'est bien possible. Je vais y revenir un petit peu parce que c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on entend par mystagogie? Ben, ça se rapporte effectivement à la dimension du mystère dans les religions anciennes, qu'on appelle les religions à mystère, justement, à Éleusis et dans d'autres endroits comme cela, la personne qui était admise dans le monde des mystères était conduite. Et donc, le mystagogue, c'est celui qui conduit le myste. Et qu'est-ce qu'un myste? C'est celui qui va être justement initié, introduit dans la vie dont le mystère lui ouvre la porte. Non, donc mystagogue, c'est celui qui conduit le myste, ou qui, ça peut avoir aussi le sens de celui qui conduit les mystères eux-mêmes, c'est-à-dire qui les organise. Par exemple, dans la vie d'expérience que nous avons de l'Église, l'évêque, par exemple, le ministère épiscopal est typiquement un ministère mystagogique, dans la mesure où, comme vous le voyez dans une célébration épiscopale, l'évêque est celui qui préside, il conduit la célébration. Il conduit la célébration de manière de plusieurs façons, d'ailleurs, d'une part en étant à sa place, c'est-à-dire en président, et donc en étant au milieu de la célébration, c'est très net, il est au milieu de l'autel, il est au milieu de l'église quand il s'habille, il est au milieu de l'église quand il entre derrière l'évangile, enfin, c'est le ministère du milieu. Ce n'est pas suffisant pour conduire la célébration, il faut aussi, animer cette célébration. Et l'évêque le fait d'une manière qui est très caractéristique, Il le fait en donnant la bénédiction. C'est lui qui constamment bénit les prêtres, les diacres, les acolytes, tous les agents, visibles, si je peux dire, de la célébration. Il les bénit pour l'action qu'ils doivent faire. Hein, par exemple, au début de la célébration, c'est très net, le premier des diacres, en tout cas, se tourne vers l'évêque et lui demande la bénédiction pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire commencer la liturgie. Et il ne le fera pas s'il n'y a pas la bénédiction. C'est-à-dire que l'évêque est celui qui dispense la grâce de faire les choses. Ce n'est pas une permission administrative que l'évêque donne en donnant sa bénédiction. Il donne la grâce de le faire. Il donne l'énergie de le faire. Il donne l'impulsion mystagogique, justement, d'accomplir cela. Et il en est de même des prêtres. Les prêtres n'entrent pas. Quand l'évêque est là au milieu de l'église, les prêtres n'entrent pas dans le sanctuaire sans avoir pris la bénédiction de l'évêque. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas, comme je viens de dire à l'instant, ce n'est pas une question d'ordre, de discipline, je ne sais pas quoi, de discipline ou d'étiquette liturgique, quoi, ce qu'on pourrait appeler ça. Hein, c'est essentiellement une question mystagogique, c'est-à-dire que l'évêque, quand il donne la bénédiction, il donne le mouvement même de la connaissance liturgique, il donne le mouvement même de l'illumination de saint mystère. Donc c'est très important, vous voyez, donc le mystagogue est celui qui conduit le déroulement des actions sacramentelles, des actions mystériques, si vous préférez. Donc ça, c'est particulièrement le ministère épiscopal qui, dans ce sens-là, est un ministère magnifique. L'épiscopat, c'est une réalité sensationnelle. C'est vraiment le pontife par excellence, c'est le sacerdoce dans sa plénitude. Ça montre bien qu'il n'y a rien au-dessus de l'épiscopat. L'Église orthodoxe a gardé justement la tradition de n'avoir rien au-dessus de l'épiscopat. L'épiscopat est le ministère suprême de l'Église et ça se voit justement dans son activité mystagogique et dans le fait aussi qu'il c'est pas qu'il délègue, hein, je ne sais pas s'il délègue vraiment, mais il transmet la grâce sacerdotale à l'ensemble du corps ecclésial. C'est-à-dire qu'il la transmet aux prêtres, il la transmet aux diacres, il la transmet aux membres de la hiérarchie les plus proches de lui, mais il la transmet au peuple. Parce que c'est l'évêque qui baptise. Quelquefois, il laisse les prêtres baptiser, mais je vois chez nous, par exemple, dans la métropole roumaine, c'est très très clair que chaque fois qu'on peut, c'est l'évêque qui baptise. Et les prêtres forment autour de lui ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le collège presbytéral qui l'accompagne et qui justement agit sous son impulsion spirituelle. Mais c'est l'évêque qui baptise. Donc ça veut dire que c'est très important, ça. C'est-à-dire que le ministère épiscopal, en tant que ministère mystagogique par excellence, est celui qui transmet à l'ensemble du corps ecclésial la grâce du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, donc mystagogique, ça veut dire, vous voyez, c'est pas mal de choses. Ça veut dire conduire des mystes, des initiés, je reviendrai tout à l'heure pour le baptême, guider, conduire, présider l'action mystagogique, mais c'est également très important, c'est transmettre l'influx spirituel, l'influx charismatique, l'influx de la grâce à tous les degrés du corps ecclésial. Alors ceci est très bien décrit. Je vous y renvoie, je vous y ai peut-être déjà renvoyé, pardon. Je vous renvoie donc aux écrits de Denis l'Aréopagite, et non pas l'Aéropagite, s'il vous plaît. Donc Denis l'Aréopagite, qu'on a vu d'un sobriquet, on l'appelle le pseudo-Denis, comme s'il était un menteur. Enfin, c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup de son anonymat, en fait. Oui. Alors, comme on ne sait pas qui c'est, comme personne ne l'a jamais vu, comme on ne connaît pas sa biographie exacte, au lieu de continuer à l'honorer du beau nom de Denis l'Aréopagite, on l'appelle pseudo-Denis. Mais bon, bref, c'est lui qui agit. Alors, ce monsieur est l'auteur, le responsable, le prête-nom, d'un ensemble de textes magnifiques, les noms divins, la hiérarchie céleste, et un ouvrage qui s'appelle la hiérarchie ecclésiastique. Et donc il parle de cela, et ce que je dis là, il en parle de manière beaucoup plus détaillée, je vous y renvoie, c'est très très, très intéressant, et il écrit justement les opérations d'illumination qui se font justement par le ministère mystagogique de l'évêque, du prêtre, des diacres également qui concourent à cela, et même les ordres qu'on appelle les ordres mineurs, pour ne pas dire les ordres inférieurs, pour ne pas parler de bas clergé, bien sûr, ça serait offensant, et les ordres mineurs, qui sont sous-diacres, lecteurs, acolytes, portiers aussi, puisqu'il y a eu, dans l'Église ancienne, il y avait des ordres, exercices également, des ordres mineurs assez nombreux, dont la fonction est de transmettre à leur niveau cet influx spirituel qui vient de l'épiscopat, qui vient du Christ, et que l'évêque reçoit du Christ, le Christ étant le mystagogue par excellence, évidemment. Évidemment, quand je vous dis que le ministère épiscopal est le ministère souverain de l'Église, je ne dis pas une bêtise, rassurez-vous, mais en disant ça, je suis bien conscient que le ministère épiscopal reçoit sa grâce et son sacerdoce du Christ lui-même, qui est le véritable président de la célébration mystagogique, qui est le véritable illuminateur de tous, et qui est le véritable donateur de la grâce du Saint-Esprit, bien entendu. Mais donc on peut dire que l'évêque, à la place qui est la sienne, agit de façon iconique, c'est-à-dire qu'il est l'icône, c'est-à-dire la réalité visible de l'action invisible du Christ Seigneur, Roi et Pontife véritable. Mais donc cette dimension mystagogique, on la retrouvera, je pense, dans tous les sacrements, tous les mystères. Et moi, personnellement, j'y tiens beaucoup. C'est très beau. Il faut pas avoir peur de parler de ça. Bien sûr, à notre époque de démagogie, dès qu'on commence à parler de mystagogie, du rôle mystagogique de l'évêque, des prêtres, etc., les personnes ont tendance à nous accuser de cléricalisme, mais c'est pas du cléricalisme, il y a des ministères objectifs pour le coup, pour ne pas parler de subjectivité, il y a des ministères objectifs qui ont été fondés par le Christ lui-même et que personne ne peut se permettre de remettre en question, et ces ministères ont une fonction effectivement dans l'Église, une fonction illuminatrice et une fonction charismatique pour le bien du peuple de Dieu, et il n'y a absolument pas à remettre ça en question. Ce n'est pas parce qu'il y a ça que les chrétiens ne sont pas tous égaux dans le baptême, dans l'autre dimension. Oui, je rencontre ce problème-là avec le mystère du mariage. Par exemple, beaucoup de nos contemporains, dans les jeunes générations, ont beaucoup de mal à supporter la théologie du mariage. On dit « l'homme est le chef de la femme ». Ça se passe très très mal. Très mal, il y a des personnes qui refusent le mariage pour cette raison-là, parce qu'ils ne supportent pas cette parole. Or, en fait, notre conception du chef ici, c'est justement celui qui transmet la grâce. Il la transmet à l'épouse, et par l'épouse, il la transmet aux enfants. Il y a quelque chose de sacerdotal, de pontifical dans la position de l'homme dans le couple. Et alors, si on peut contester ça, mais des amis m'ont écrit récemment, mais on ne supporte pas cette vision hiérarchique du couple et du mariage. Bon, je suis désolé pour vous que ce soit insupportable à ce point-là, mais je pense que vous vous privez d'une dimension très très importante de l'existence, et qu'il ne faut pas être conditionné comme ça par les modes de l'époque. Il faut arriver à puiser dans la tradition ce qu'on y trouve d'intéressant, de sage, de grandiose, Parce que si tous les couples vivaient vraiment suivant la conception hiérarchique et celle de l'Église, ça se passerait beaucoup mieux quand même. Parce qu'on aurait beaucoup de sainteté, on aurait beaucoup de lumière, on aurait une vraie transfiguration de la vie conjugale. Je ne parle pas des cas où ça devient, bien sûr, des caricatures. C'est comme le clergé, ça peut devenir une caricature aussi. On a des clercs despotes, des évêques despotes, on peut avoir des hommes, des époux despotes, mais on ne parle pas de ça, on parle de la réalité profonde des choses. Bon, donc ça c'est le premier point que je vais mettre en avant, parce qu'on va le retrouver particulièrement dans le baptême, cette dimension mystagogique des sacrements. En vous demandant pardon si vous considérez ça comme une répétition de ce qui a pu être dit dans un cours précédent. Ensuite, il y a une autre dimension dont j'ai déjà parlé, mais sur laquelle je reviens, qui en fait une dimension composée de deux dimensions, mais qui vont ensemble. C'est-à-dire que tout sacrement comporte une dimension double de consécration et de sanctification. Et on ne peut pas parler de cela séparément. C'est pas, à mon avis, c'est pas très intéressant de parler de la consécration d'abord et de la sanctification ensuite, parce que ça se passe quand même de manière concomitante, sinon simultanée. Je rappelle tout ça quand même, parce que c'est ça la définition d'un sacrement. Un sacrement, c'est pas seulement un mystère. Ce n'est pas seulement un mystère. C'est un événement dans lequel une personne, une créature, un temps, un lieu, est dévoué à Dieu. C'est une dévotion. Hein. On dit consacré, c'est dévoué. Dévoué, dédié. Oui. Dévoué ou voué aussi. On dit aussi voué à Dieu, voué. Un lieu, un espace, un moment, le vouer à Dieu. C'est-à-dire cette personne, ce lieu, ce temps, cette créature, cette table, ce linge, cet objet en métal, il est voué à Dieu, il appartient à Dieu, et il n'appartient qu'à lui, et personne n'a le droit de s'en servir pour faire autre chose, vous voyez. Ça n'appartient qu'à lui, ça ne sert qu'à ça. Donc là, l'idée, si vous voulez, de consécration, c'est l'idée d'une appartenance exclusive à Dieu. Alors, ou à quelqu'un, si vous voulez, on peut se consacrer. C'est pas uniquement dans le domaine de la divinité, si vous voulez. Il y a des formes de consécration par le don, par exemple, la propriété, des formes de propriété privée. Font que tel, je sais pas quoi, un véhicule par exemple appartient à monsieur un tel qui en a la carte grise et qui en paye l'assurance. Donc des formes de propriété, des formes très subalternes de propriété, et de propriété privée en particulier, correspondent sont des formes de consécration, c'est vrai. Bien entendu, il y a quelque chose dans le mariage, quand on y reviendra, qui est une consécration. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que ben, dans le mariage, chacun appartient à l'autre, est consacré, voué à l'autre. Les deux sont consacrés à Dieu, sont voués à Dieu dans leur vie conjugale, mais chacun est, c'est pas appartient dans le sens de propriété, si vous voulez, mais quand même consacré à l'autre. C'est ça qui fait la base, disons, de l'unité conjugale. Et que c'est pour ça que, excusez-moi pour ceux que ça peut blesser, que l'adultère et le divorce sont des péchés très graves, parce qu'en fait, ce sont des moments où la consécration est, pas détruite, parce qu'on ne peut pas complètement déconsacrer, séculariser quelque chose ou quelqu'un, mais tout de même fracturer gravement. Donc un couple qui se sépare, c'est un couple qui, du point de vue de la consécration, a cassé quelque chose qui était consacré. Donc c'est un problème qui est presque pas soluble pour une intelligence humaine. Qu'est-ce qui se passe quand une personne consacrée, d'une certaine façon, se déconsacre, hein, vous voyez, un prêtre qui est consacré au ministère de l'Église et qui abandonne la prêtrise, un moine qui a été consacré dans l'état monastique et qui abandonne cela, ou un lieu qui a été consacré en église qui serait profané, transformé en piscine ou en discothèque, comme c'est arrivé. Ce sont des moments très 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 graves de l'existence humaine dont nous ne savons pas bien parler. Vous voyez, moi, ça me dépasse un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans des moments comme ça? Alors bien sûr, il y a une consécration, c'est dans des prières de la liturgie, des dons présanctifiés, on parle de consécration inadmissible. Alors non pas inadmissible, comme avait mal dit quelqu'un, mais consécration inadmissible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être perdu. Et nous pensons cela, dans le fond, nous pensons cela, parce que nous pensons qu'un prêtre qui a quitté le ministère, s'il veut revenir, eh bien on ne va pas le réordonner. Des époux qui se sont séparés, s'ils veulent revenir ensemble, comme c'est le cas de plusieurs de mes amis, ils se sont remariés, comme on dit, ils ont refait le laïque, sacrement. Ils ont refait le mariage civil, parce que ça, effectivement, juridiquement, il y avait eu fracture, mais on n'a pas refait le sacrement du mariage. Donc, dans la conscience de l'Église, il est bien clair qu'une consécration a un caractère non seulement exclusif, mais définitif. Définitif. Et ça, c'est très, 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 très important. Alors, ce caractère exclusif, c'est-à-dire telle réalité appartient en propre et exclusivement à telle personne. Donc, le caractère exclusif et définitif de la consécration, ça, si vous voulez, c'est une dimension qui est très, très, très importante et qui est très typique, si vous voulez, de la vie, de l'expérience religieuse biblique et ecclésiale, parce qu'elle est la même, parce que l'Église, c'est l'Israël continué. Hein. J'oppose aussi peu que possible l'Église à Israël, parce que ça me paraît vraiment une mauvaise habitude de penser ça. Donc, si on prend la continuité de l'histoire du peuple de Dieu, d'Abraham à vous qui nous écoutez ce soir, et c'est dans cette continuité, on voit que l'expérience de la consécration, la réalité de la consécration est une réalité permanente. Permanente. Il y a des tas d'exemples. Hein. La circoncision, par exemple, est un signe de consécration à Dieu, mais également différentes formes de sacrifices. Pour garder l'exemple de M. Abraham, notre père à tous, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, il lui demande de le lui consacrer. Parce que sacrifier ce fils unique qu'Abraham a reçu de Dieu, ça veut dire qu'il le rend à Dieu dont il l'a reçu, et qu'en le lui sacrifiant, ce fils unique n'appartient à personne d'autre, appartient exclusivement et définitivement et éternellement à Dieu. Alors, bien sûr, c'est choquant, parce que l'idée de sacrifice humain, c'est quand même une idée qui nous est assez étrangère. Et l'idée de sacrifice d'enfant, c'est une idée qui nous révolte profondément, bien sûr. Mais si vous voulez, est-ce qu'on peut peut-être laisser le plan, là aussi, des réactions psychologiques pour voir qu'est-ce qu'il y a de profond. Qu'est-ce qu'il y a de profond, quand même, dans une histoire comme ça? Ce n'est pas... Vous savez, vous avez une histoire... Dans la Bible, il y a d'autres histoires. L'histoire de Jephthé. Et dans l'histoire grecque, il y a une histoire sinistre, qui est le sacrifice d'Iphigénie. Vous avez peut-être connu, personnellement. Et Iphigénie, donc, est une demoiselle, bien entendu, la plus belle du monde. Ce serait très dommage, autrement. Et dont le papa, qui s'appelait, je crois, Monsieur Agamemnon, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas connu non plus, mais... Je cite de mémoire, Agamemnon, ayant besoin de vent pour conduire sa flotte vers une destination, une ville qu'il voulait prendre, et n'autrement pas de vent dans ses voiles, a offert sa fille en sacrifice pour obtenir ça. Mais ça, c'est quand même assez différent. Je crois que c'est vraiment des sacrifices. Et donc, il a dévoué, il y a effectivement une dévotion, il a dévoué sa fille à la divinité, avec une idée derrière pour obtenir de la divinité quelque chose. Alors ça peut arriver effectivement que les actions consécratoires soient très, très, très intéressées. Oui. Alors, c'était pas le cas d'Abraham. Quand Abraham a accepté, c'est magnifique comme histoire. C'est une des plus belles, des plus grands événements du monde qui s'est passé là. Qu'un être humain comme Abraham, c'est un bédouin comme ça, un type très simple, et une conscience aussi immense de ce que peut représenter la volonté divine, c'est hallucinant. Oui. C'est un homme très, 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 très évolué, Abraham. C'est pour ça qu'on le cite parmi les ancêtres, les géants de l'humanité. Oui, c'est un géant, Abraham. Et c'est un géant de la foi, c'est un géant de la spiritualité, c'est un géant de la conscience. C'est un géant de la théologie, c'est un théologien extraordinaire, Abraham. Et parce qu'il a entré sur ce chemin de la consécration, d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher, évidemment, et mais de faire à Dieu ce qui lui venait de Dieu, c'est de rendre à Dieu, simplement de reconnaître que ce fils qu'il avait lui venait de Dieu et au fond ne lui appartenait pas. Très important dans le phénomène de consécration, quand on consacre quelqu'un ou une réalité, on fait un acte de dépossession. Si c'est à toi complètement et exclusivement et pour toujours, c'est que ce n'est pas à moi. C'est quand même simple. Donc vous savez, les enfants ont toujours du mal avec ça quand ils jouent, quand on les laisse jouer ensemble. Il y a toujours c'est à moi, maintenant c'est à toi. Ils se battent avec les jouets, et chacun tire du côté de l'autre. Et ils ont beaucoup de mal à donner leurs jouets à d'autres enfants. Parce que s'ils le donnent à autrui, ça veut dire que ce jouet n'est plus à moi puisque je l'ai donné. Mais le donner, c'est justement le consacrer. Alors il y avait une histoire, c'était une histoire assez drôle, dans les apophthegmes des Pères du Désert. Il y avait deux frères, deux moines, deux ermites, qui vivaient ensemble depuis des années dans le désert. Ils avaient des petites maisons, etc. Ils priaient, enfin, tout ce que les moines font quand ils sont entre moines. Ils se racontent des histoires de moines, et puis ils prient, et puis ils jeûnent, ils font la nourriture, ils travaillent le jardin, tout ça avec une grande paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et un jour, un des deux moines, je ne sais plus comment il s'appelait, dit à l'autre, écoute, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie monastique. Ah bon? Lui dit l'autre, très étonné, très inquiet. Je pensais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous parler dans leur vie absolument paradisiaque de moines du désert. Et le premier lui dit, mais si, je veux dire, ça va pas. Mais j'ai entendu dire, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu dire que dans le monde, les gens se disputent. Oh, t'as entendu dire une chose comme ça? Mais comment est-ce que c'est possible? Dit l'autre. Les gens se disputent. Comment? Moi, je pensais que tout le monde vivait en paix, comme nous, enfin, comme des frères. Il y a donc des gens sur terre qui se disputent. Oui, dit le premier, et il paraît, ça, j'ai entendu dire, mais je n'en suis pas sûr, il paraît qu'ils se disputent parce que ils veulent posséder quelque chose. Ils veulent dire, ceci est à moi. Oh! Il se voit, ça, c'est extraordinaire, mais alors, je ne sais pas quoi en penser. Alors le premier lui dit, écoute, je ne sais pas, on va essayer de voir ce que ça donne, parce que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, nous ne sommes jamais disputés, ça fait 30 ans ou 40 ans que nous vivons dans le désert comme des frères, des agneaux de douceur, et si on nous disputait quand même pour comprendre un peu le monde, savoir ce qui se passe là-bas, et bon, alors comment est-ce qu'on va faire? Mais écoute, je ne sais pas. Tiens, on va prendre cette brique qui est là. Il va prendre une belle brique. Alors, la brique, je la mets là devant moi. Et puis, voilà comment on va faire. Toi, tu vas dire, cette brique est à moi. Et moi, je te dirai, non, elle est à moi. Et normalement, on devrait arriver à se disputer. Bon, fais l'autre. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je vais se faire expliquer. Tu es sûr. Ou si, on prend une brique. Toi, tu dis, elle est à moi. Et moi, je dis, non, elle est à moi. Ou on va l'inverse, si tu veux. Je dis, elle est à moi. Et toi, tu diras, non, elle est à moi. Bon, peu importe, on va essayer. Donc, ils prennent, ils le mettent devant eux, comme ça, et allez, vas-y, dit à son frère, allez, vas-y, commence. Alors, le premier frère dit, cette brique, je crois qu'ils disent, voilà, cette brique est à moi. Alors, l'autre dit, oh, ben, écoute, si elle est à toi, je te la laisse. Bon, et ils n'ont pas réussi à se disputer. Bon, mais donc il y a ici, dans la consécration, il y a un renoncement à posséder. Donc il y a toute forme de consécration comporte une dimension ascétique, une dimension de jeûne, une dimension de dépossession et une dimension d'oubli de soi, une forme de mort en fait. Consacré, c'est pas forcément... Dans le cas d'Abraham, par exemple, pour revenir à lui, que nous aimons beaucoup, c'est vraiment une figure, comme je disais, magnifique, magnifique. Quand Abraham a dévoué son fils à Dieu, et donc s'apprêtait à le mettre à mort, en fait, lui-même, il mourait. C'est la mort d'Abraham, c'est la mort en tant que père, c'est la mort parce que... il renonçait à tout ce qu'il possédait de plus cher et tout ce qui le faisait vivre, sa joie de vivre. Je ne sais pas, mettez-vous à la place d'un papa qui doit sacrifier son enfant. Je ne sais pas, il n'y a pas besoin de faire un gros effort pour comprendre tout de suite que c'est abominable comme situation. voyez, pensez quand même aux parents dont les enfants partent au service militaire, partent faire la guerre à l'étranger. Leurs enfants partent, ils leur disent au revoir de la main, ils espèrent échanger un courrier avec eux, mais ces mamans, ces papas savent que peut-être ce fils qu'ils voient partir, ils ne le reverront pas, vous voyez. Donc ils meurent. C'est ça qu'on dit, le proverbe français dit partir, c'est mourir un peu, mais c'est pas seulement partir qui est mourir un peu, c'est laisser partir qui est mourir un peu. Donc c'est vraiment le phénomène de la mort qui est là, et pour accepter la mort de son enfant et sa propre mort en le laissant partir, il faut vraiment croire à la vie. Et si Abraham n'avait pas cru à la vie, il n'aurait pas pu passer par cette double mort, celle de son fils et la sienne. Et c'est pour ça que le Christ, parce que c'est une des raisons pour lesquelles il dit ces paroles extraordinaires, il dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». C'est-à-dire que le Christ a attesté qu'Abraham était d'une certaine façon un témoin de la résurrection, qu'il fallait croire en la vie pour accepter de passer par la mort comme il l'a fait. Donc la consécration, c'est vraiment un élément fondamental de la civilisation biblique, en tout cas, et des autres civilisations, parce que ça se trouve dans d'autres peuples, évidemment, mais dans la civilisation biblique, c'est très très fort, parce que il y a ce qui fait la caractéristique de la civilisation biblique, c'est justement l'intersubjectivité. Le fait que Dieu est connu comme une personne, ce qui est quand même propre à l'expérience biblique. Qu'on me dise le contraire si on veut, je pense que personne ne va le faire. Je ne vois pas dans quelle expérience religieuse la divinité a le caractère personnel et hypostatique qu'elle a dans le cadre de la révélation biblique. Franchement, je ne vois pas. Peut-être que je ne suis pas instruit. J'aurais peut-être dû lire davantage de livres religieux, je ne sais pas, mais ce que je sais de l'histoire des religions me fait dire ça. Et donc, dans ce cadre-là, le phénomène de la consécration et de la consécration à Dieu prend une force beaucoup plus grande, parce que c'est vraiment une personne qui existe et que je reconnais comme une personne, que je vais consacrer une réalité. Par exemple, je reviens toujours à Moïse, que j'aime beaucoup, quand Moïse accepte de faire la volonté de Dieu et d'aller trouver le peuple, alors qu'il ne veut pas au début, vous savez très bien qu'il dit « Oh mais non, attends, j'étais bien tranquille ici chez mon beau-père à garder les chèvres, qu'est-ce que tu m'embêtes à m'enlever là-bas, puis je parle pas bien, je suis incapable. » Bref, il y a toute une discussion qui est très amusante, où Moïse résiste à Dieu autant qu'il peut. Et puis finalement, il obéit. Eh bien, l'obéissance est une consécration. Quand Moïse a obéi, il a fait la volonté de Dieu, en allant donc trouver ses frères en Égypte, il a consacré sa vie à Dieu, il a consacré sa volonté à Dieu, il a sacrifié sa vie à Dieu. Et c'est là que je me permets d'employer le mot sacrifice que les gens n'aiment pas, pour des raisons très précises, c'est que le mot sacrifice a pris en Occident une valeur expiatoire, une valeur juridique et une valeur très 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 doloriste. On a perdu le sens du mot. Or, sacrifier, c'est rendre sacré, c'est consacrer, tout simplement. Le mot sacrifier est un mot qui est à peu près, si je me trompe, là aussi, j'attends vos contestations, sacrifier est un synonyme de consacrer. Sacrifier, ben, étymologiquement, c'est faire sacré, rendre sacré, c'est rendre. Et ce qui est sacré, c'est ce qui est mis de côté pour quelqu'un. Les amis m'ont fait ça. Les amis qui m'ont invité m'ont dit « Oh, on aimerait bien que vous veniez manger avec nous le jour de Noël. » Comme ils habitent à Montpellier et que moi je serai à Paris, je leur ai répondu « Écoutez, ça ne va pas être facile tout de suite. » Ils m'ont dit « C'est pas grave, on vous met de côté quelque chose. » Donc, ils mettent. C'est ça, sacrifier. Et c'est dans les choses de la vie. Je vous le mets de côté. Les commerçants, on va chez le boucher, on va chez le charcutier. Je vous le mets de côté, hein. Ou bien mettez-moi ça de côté, j'aimerais le prendre plus tard. Alors, c'est-à-dire que c'est le qui est consacré. Bon, ça c'est la consécration sous une forme ou sous une autre. Je vous parle de tous les degrés, mais les choses de la vie, j'aime bien les choses de la vie. Je suis très, très impressionné de voir que la réalité spirituelle est vraie à tous les niveaux de l'être. Ce qui est vrai, ce que contemplent les chérubins et les séraphins, eh bien, c'est sont les mêmes lois, les mêmes vérités que nous voyons en nous penchant vers nos enfants, en regardant les animaux par la fenêtre de notre jardin. Donc vous voyez, l'idée de consécration est très importante. Et c'est quelque chose qui honore l'être humain. C'est un peu en péril dans la société, la civilisation dans laquelle nous vivons, la civilisation matérialiste, est une civilisation qui me semble, je ne veux pas être trop sévère et négatif surtout, parce que c'est un monde que j'aime beaucoup, je suis très 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 heureux d'y vivre à cette époque, mais il me semble que c'est une civilisation qui se prive du mystère de la consécration. On ne se sacrifie pas beaucoup, on ne sacrifie pas grand-chose, ou alors on sacrifie les autres à soi, par exemple. Les gens vont sacrifier, vont faire souffrir une personne parce qu'eux veulent satisfaire leur égoïsme. Donc effectivement, il y a des formes de consécration, mais égocentriques. Je vais me consacrer à moi-même quelque chose dont j'ai envie. Alors, c'est un peu l'histoire de la brique. Cette brique est à moi. Mais ce chocolat est à moi. C'est mon chocolat. C'est ma voiture. C'est ma vie. C'est mon bonheur. C'est mon plaisir. C'est mon confort. Et toi, là-bas, tu peux crever. Je suis désolé pour toi, mais c'est à moi que ceci est consacré. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant dans la civilisation de consommation. Au fond, le phénomène consécratoire est inversé. Au lieu de se sacrifier aux autres, de donner aux autres, on a tendance à sacrifier les autres à soi. Mais c'est quand même un phénomène de consécration. Alors, pas pendant la période de Noël, vous allez me dire, mais non, pas en ce moment, au contraire, tout le monde fait. On va dans les magasins, on achète des cadeaux pour les autres. Bon, ça c'est vrai. Bon, donc, je veux dire, à part la période de Noël, qui est une période où on fait des cadeaux aux autres, dans une bonne partie de l'année, quand même, on se fait des cadeaux à soi et on passe avant les autres, quand même. Il faut regarder ça de très près, c'est assez important. Du point de vue religieux, si vous voulez, il y a une inversion des phénomènes religieux. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc on sacrifie les autres à soi. Ça s'est fait dans d'autres cas, si vous voulez. Quand, par exemple, un pays en envahit un autre et détruit tous ses habitants, on sacrifie les autres à soi. Quand on génocide les chrétiens d'Orient, etc., quand on fait disparaître les Arméniens, les Kurdes, etc., c'est pour assurer une certaine paix. Ils sont évidemment sacrifiés. Mais ils sont sacrifiés à notre désir de puissance, à notre désir de pouvoir, à notre politique, à la politique internationale. Enfin, ce sont des phénomènes de sacrifice, mais qui sont évidemment très pénibles, très pervers, et donc du coup qui abîment le mot sacrifice. On n'a plus tellement envie d'employer ce mot-là. Alors que se sacrifier pour faire du plaisir à quelqu'un, quelque chose qui répond à la question « qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» C'est une belle manière. Alors c'est ce que nous disons à Dieu, en fait. Notre relation à Dieu, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Quel sacrifice agréable est-ce que je peux t'offrir ? Quel est le sacrifice à... Ça, c'est quelque chose... Non, il y a des très beaux mots en roumain, le terme de Jeff, pour sacrifice, c'est un très très beau mot slave, je pense, à adoucher Jeff, plecout lui dumnezeu, ou apporter à Dieu un sacrifice agréable. Il y a un grand écrivain ecclésiastique qui s'appelle Saint Cyril de Jérusalem, qui a écrit un livre entier là-dessus, qui n'est malheureusement pas traduit, qui est donc en grec, mais le Père Saint Éloïse s'y référait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement pour ça, en montrant que justement c'est ça le culte chrétien, c'est ça la vie sacramentale chrétienne, c'est essentiellement apporter à Dieu un sacrifice agréable, lui apporter une offrande, lui consacrer quelque chose, oui. Du temps, de l'espace, des objets, des créatures, oui. Alors ça c'est des notions de consécration, c'est peut-être un petit peu long mon topo là, pardon. Et qu'est-ce que c'est que la sanctification qui va avec? Alors ça c'est assez important, ça. Parce qu'on retrouve les deux, consécration et sanctification, on les retrouve tout le temps. La sanctification, c'est très simple. La sanctification, c'est la... Ça revient à la déification ou la divinisation. C'est-à-dire, ce qui est consacré est transformé en Dieu. Parce qu'on peut... par exemple, si j'offre des fleurs à ma voisine, ben je fais... Je, un sacrifice, je lui achète des fleurs pour lui faire plaisir, je lui consacre quelque chose, bon, parce que c'est son anniversaire, je ne sais pas quoi, bon. Mais ça ne veut pas dire que ces fleurs deviennent ma voisine, oui. Premièrement, ma voisine ne les mange pas, en principe, à moins que ces fleurs soient des fleurs comestibles, parce qu'il en existe. Et les fleurs qu'on mange, enfin, en principe, j'ai jamais vu ça, bon. Donc elle ne les mange pas, elle ne se les assimile pas, elle n'assimile pas cette offrande à elle-même par la manducation. Et en tout cas, ces fleurs restent des fleurs et ma voisine reste ma voisine. Vous voyez, il n'y a pas d'assimilation à la personne, il n'y a pas de transformation dans la personne, il n'y a pas de d'assimilation. Alors que dans le phénomène de sanctification, il y a assimilation du don à celui qui le reçoit. Et c'est, ça se voit beaucoup dans certaines pratiques religieuses universelles d'ailleurs, même dans notre tradition biblique, des offrandes étaient faites à Dieu, des offrandes animales en particulier, ou végétales d'ailleurs, et ces offrandes devaient être consommées par Dieu. Et le signe, c'est très intéressant ça, moi ça m'intéresse beaucoup le comportement religieux, et pour le signe de cette consommation des oblations par Dieu, les oblats par Dieu, les offrandes par Dieu, par la divinité ou par Dieu, le signe était marqué par le feu. Donc, ce qu'on appelle un holocauste, hein, eh bien, c'est une offrande totale d'un animal, avec les cornes, la peau, tout l'animal, et il est brûlé. Il est brûlé. Pourquoi est-ce qu'il est brûlé? Mais c'est parce que le feu, bon, marque la disparition. Donc ça veut dire, dans la conscience des hommes, Dieu a accepté cette offrande, il l'a consommée. Comme si on disait, Dieu l'a mangée. Et donc les offrandes, quelquefois c'est des offrandes alimentaires, dans beaucoup de religions, mais ça, on prépare des petits gâteaux, des offrandes, on les met là sur une pierre, et puis on s'en va, et puis quand on revient, ils ne sont plus là. On pense que c'est Dieu qui l'a mangé. En fait, c'est peut-être un animal qui est passé par ici. Bon, on ne s'occupe pas trop. Mais les offrandes ont disparu. Donc la disparition de l'offrande signifie, globalement, si vous voulez, ça, qu'elle a été consommée. Et donc, qui dit consommée, dit d'une certaine façon assimilée. C'est-à-dire que mon offrande, ce que j'avais consacré à la divinité, mais la divinité l'a accepté, l'a agréé, l'a consommé, et se l'est assimilé. Donc d'une certaine façon, ce que j'ai offert à Dieu est devenu Dieu, est devenu la personne. Mais écoutez, prenez des exemples de tous les jours. J'apporte, alors pour prendre quelqu'un d'autre, je vais changer de personne, c'est plus ma voisine, mais au voisin d'en face, je lui ai apporté, monsieur Intel, c'est votre anniversaire, c'est Noël, nous avons pensé à vous, nous avons apporté des chocolats. Oh, comme c'est gentil. Vers ça. Et donc, monsieur Intel, à qui on a apporté le chocolat, bien, il ouvre la boîte, etc. En principe, il les mange parce qu'il aime les chocolats. Et donc, on lui a apporté l'offrande. Et sous nos yeux, nous voyons notre offrande acceptée et assimilée. Et l'assimilation de l'offrande se marque par des signes sur le visage, des signes de la joie, un sourire, même un mouvement de gourmandise qui échappe à notre voisin. Donc ça veut dire que cette offrande, ce que j'ai consacré à cette personne, elle l'a assimilée, elle l'a prise, elle l'a faite sienne, et elle l'a d'une certaine façon transformée en joie, en gratitude, et il me dit merci monsieur, merci mon cher père de nous avoir fait. Donc tout ce qu'on a offert ici a été transmuté en joie, en gratitude, en remerciement, et a amélioré nos relations de voisinage, par exemple. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, chaque fois que je vois mon voisin, il me salue, je le salue, et il me dit à son tour, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ça m'a fait tellement plaisir, les chocolats, l'autre jour. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui est la base, au fond, d'un sacrifice fondamental, eh bien, il devient réciproque. Et c'est pour ça qu'on a, dans la pratique chrétienne, on a aussi le parallèle. C'est-à-dire Dieu qui lui-même, ça c'est extraordinaire ça, Dieu qui s'offre en sacrifice lui-même, qui se consacre à l'homme, et qui s'offre à l'homme, et qui se fait manger par l'homme, qui attend que l'homme le consomme, prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est quelque chose de sensationnel quand même. C'est-à-dire que c'est pour ça que, si vous voulez, là, du point de vue religieux, le phénomène ecclésial est absolument topissime, comme me disait une amie à propos d'une autre amie, elle est topissime. Alors, ce qui est topissime, c'est le haut de gamme. Hein. Mais ici, ce qui est topissime, c'est effectivement le mystère chrétien, parce qu'il y a une réciprocité dans l'offrande, et une réciprocité dans la consécration, et une réciprocité dans l'assimilation des offrandes. C'est-à-dire que ce que nous offrons à Dieu est déifié et transformé en Dieu, et ce que Dieu nous offre, c'est-à-dire lui-même, est transformé en homme. Parce que Dieu, c'est très important ça aussi, Dieu ne s'est pas seulement humanisé et fait homme en devenant homme le 25 mars, le jour de l'Annonciation, le jour de l'Incarnation, mais il devient homme chaque fois que nous communions. La communion eucharistique, c'est le devenir homme de Dieu. Mais cela dit, c'est pas tout à fait, cette opinion n'est pas partagée par tous, mais je tiens à la maintenir quand même, parce que je me paraît important, parce que Saint Nicolas Cabasilas dit le contraire, il dit justement, dans le cas de l'Eucharistie, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est qu'en fait, quand nous communions, nous devenons Dieu, alors que quand nous mangeons du pain ou du poisson, le pain et le poisson deviennent nous. Mais j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Cabasilas, qui est un saint canonisé par notre Église, donc je ne veux pas le contredire publiquement. Mais si vous voulez bien, Monsieur Nicolas Cabasilas, j'aimerais bien que vous me laissiez insister un petit peu et admettre qu'il y a les deux. Qu'il y a les deux, que dans le mystère eucharistique, pour prendre cet exemple-là, qui est évidemment le haut de gamme de l'expérience humaine, il y a Dieu se fait homme et l'homme Dieu s'humanise et l'homme est déifié. C'est-à-dire que c'est vraiment le summum du mystère de l'incarnation. Enfin, je prenais ça comme argumentaire, disons, de ce que j'essaie de dire. Ce qu'on appelle sanctification, c'est en l'occurrence le devenir Dieu d'une offrande. Ça se voit beaucoup dans l'Eucharistie chrétienne, évidemment. On offre à Dieu du pain et du vin, et ce pain et ce vin, ce sont donc des offrandes consacrées, elles sont d'abord consacrées, elles sont là, c'est très intéressant, on verra sur le détail, mais c'est vraiment intéressant, le phénomène de la consécration, tout ce qui marque l'appartenance exclusive et définitive de ce pain-là, et de cette coupe de vin-là, à Dieu et pour toujours, etc., c'est marqué par des signes sacramentels très précis. Mais en plus, ils sont sanctifiés, par la grâce du Saint-Esprit, justement, et ils sont déifiés. Ils sont déifiés. C'est pour ça que le Christ a dit « Ceci est mon corps ». Il a lui-même attesté de la déification des offrandes. Donc ça, c'est vrai. Alors, donc, ce phénomène-là, c'est que l'on le retrouve dans toute... Je pense, peut-être que je me tromperais, mais il me semble que il faut que nous cherchions, chaque fois que nous étudions un sacrement de plus près, cherchons toujours à voir ça. Quelle est sa dimension de consécration, qui généralement c'est assez clair, et quelle est sa dimension de sanctification, mais à laquelle nous ne pensons pas toujours. Je pense que c'est un peu une lacune dans la théologie des sacrements, c'est que justement on insiste beaucoup sur la dimension consécratoire, et on n'insiste pas toujours suffisamment sur la dimension de sanctification. Et donc il faut bien faire attention que la consécration, si vous voulez, c'est une phase importante de la dimension sacramentelle, de la démarche sacramentelle, mais qu'il faut qu'il y ait sanctification pour que la démarche sacramentelle soit aboutie. Voilà, donc je vous dis, mystagogie, consécration et sanctification, et aussi alors, quelque chose qui est très très, très typique du sacrement ecclésiaux, je pense que c'est vrai de tout temps, mais c'est encore plus vrai depuis la venue du Christ, la Pentecôte et la constitution du peuple des baptisés, c'est que dans tout sacrement, il y a la rencontre, l'équilibre, la compénétration, la collaboration de la parole et de l'esprit. de la vérité et de la grâce. J'ai parlé l'autre jour longuement de la grâce, mais il est souvent on emploie ça à propos du Christ lui-même, d'ailleurs, dans l'Évangile, on dit qu'il était plein de grâce et de vérité. C'est vraiment, c'est une expression qui est en... Et le Christ lui-même annonce cela, vous savez très bien, à la Samaritaine, qui lui dit, maintenant vous allez... prier en esprit et en vérité, si je ne me trompe pas. Et donc ça, cette dimension, c'est très 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 important. Ça veut dire que dans toute action sacramentelle, il y a une dimension affirmative, une certaine vérité est affirmée, une certaine révélation est faite, un certain dévoilement a lieu, certes, dévoilement, illumination, la vérité, si vous voulez, c'est pas seulement l'adéquation de la raison avec un objet, une fois de plus, mais c'est la vérité en grec, ça veut dire dévoilement. Donc chaque fois, et donc dans tout sacrement, il y a révélation, il y a attestation de quelque chose qui est vrai, il y a vérification, il y a justesse, il y a exactitude, il y a clarté, il y a évidence, et évidence. Voilà, tout ce qui est du domaine, si vous voulez, de la vérité, et tout ce qui est du domaine du verbe. Le verbe est celui qui rend évident l'amour du Père. Le verbe est l'évidence du Père, et de son amour, de sa miséricorde, et de son être. C'est pour ça que le Christ a dit... Qui m'a vu, a vu le Père. C'est très très simple. Le Christ n'a pas parlé pendant 3 heures, comme je le fais bêtement. En une ligne, il a dit tout. Qui m'a vu, a vu le Père. Simple. Ça, c'est ça qu'on appelle la vérité. Le Christ est la vérité du Père. Le Christ est la révélation du Père. Le Christ est, le Verbe est la vérité du Père. Le Verbe est le Verbe du Père, la parole du Père. Et dans tout sacrement, il y a cela. Donc il y a des paroles qui sont dites, qui doivent être justes, qui doivent être exactes, et qui ne doivent en aucun cas être arbitraires. C'est pour ça que la plupart de ces paroles sont léguées par la tradition. Et là aussi j'ai un problème avec les questions du mariage. Vous savez, dans l'Église orthodoxe, pour le mariage, on lit l'Épître de Saint Paul et on lit l'Évangile de Cana. Et c'est tout, et on ne discute pas ça. Alors, les personnes viennent maintenant et disent « Mais tout de même, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme les catholiques et choisir nos textes ?» Je dis « Écoutez, non. Non, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Je suis désolé. » Je leur dis ça avec le sourire, la façon la plus aimable possible. Mais non. Non. C'est-à-dire que l'élément de vérité, il est là, il est à prendre ou à laisser. On va l'expliquer, on va l'interpréter, on va se débattre avec. Ce n'est pas toujours très facile. Mais cette vérité-là, elle est donnée. Est à prendre ou à laisser, vous voyez, c'est très 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 important. Et puis, en même temps, si vous voulez, simultanément, il n'y a pas que la vérité non plus, ce serait insupportable, une vie chrétienne, une vie d'église, une vie paroissiale qui reposerait que sur la vérité, ce serait invivable. Parce qu'avec la vérité, on peut écraser les gens, hein. Vous savez, les chrétiens, même historiquement, ne se sont pas privés d'exterminer les autres sous prétexte de vérité. Hein, ça, c'est... Ah oui, je ne veux pas vous prendre votre temps à rappeler des exemples que vous connaissez parfaitement. Donc la vérité en elle-même, ça peut être redoutable, vous voyez. Et c'est pour ça que le Christ, et ça c'est très intéressant, il faut toujours regarder vers le Christ, de toute façon, le Christ a été très 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 fort dans ce domaine-là, parce que lui en tant que vérité, alors qu'il pouvait écraser les autres en tant que vérité, il le dit à l'apôtre Pierre, je crois, à Gethsémani, il peut demander à son père 12 légions d'anges, on fait clac dans ses doigts comme ça, et il a ces 12 légions d'anges, qui ne sont pas 12 légions de motards, c'est des vrais anges avec des ailes partout et tout, et qui viendraient imposer la vérité et écraser complètement ces malheureuses personnes qui sont venues pour l'arrêter. Donc ce n'est pas un problème, le Christ pouvait... toute la puissance possible pour imposer la vérité parmi les hommes et créer un totalitarisme insupportable et inhumain de la vérité divine. Imaginez ça. Mais quand je dis le Christ, ça veut très bien, je vois bien, je viens de le dire à l'instant, je viens d'y faire allusion à l'instant, ça veut très bien que certains chrétiens ont fait ce que le Christ n'a pas fait. Eux, on l'ont fait ou ont essayé de le faire. Et donc il y a, pour ne pas avoir peur de dire les choses, il y a historiquement des formes de totalitarisme religieux, de totalitarisme chrétien, qui sont très très révélatrices, justement, d'une présentation exclusive de la vérité. Mais le sacrement et la vie de l'Église, ce n'est pas ça. C'est la vérité, mais c'est aussi la vérité et la grâce. C'est la vérité et l'esprit. C'est le Verbe et l'esprit. Et comme dit Saint-Irénée, ça veut très bien que Saint-Irénée dit ça, il dit que le Verbe et l'esprit sont les deux mains du Père. C'est une représentation anthropomorphique que nous lui pardonnons volontiers, parce que Saint-Irénée, on lui pardonne tout. Et puis parce que c'est bien commode, quelquefois, une bonne petite représentation comme ça, ça coûte pas cher du tout, ça fait de mal à personne, et ça apprend beaucoup. Donc il a dit, le Verbe et l'Esprit sont les deux mains du Père. C'est-à-dire que Dieu agit dans le monde, dans son monde, dans son univers, dans sa création, dans son Église, dans son humanité, chez lui, quoi. Dieu agit par le Verbe et par l'Esprit. Il n'agit pas que par le Verbe. C'est pour ça qu'une forme de christianisme qui ne serait que christocentrique, qui serait christomoniste, en fait, ne correspond pas à la volonté du Père, ne correspond pas à la réalité. Et donc, on doit faire très très attention que la réalité, pour être complète, doit comporter une manifestation du Verbe et une manifestation de l'Esprit. De l'Esprit. C'est-à-dire, on revient à la grâce, on revient à l'inspiration, on revient au souffle, on revient à l'inspiration, on revient à la vie aussi. Parce qu'une vérité sans l'esprit, c'est une vérité sans vie. Pas, c'est ce que je vous dis. Hein, la place du Saint-Esprit dans la résurrection du Verbe, c'est une place incontournable. La résurrection est une manifestation de l'Esprit du Père. La résurrection du Fils est une manifestation, une théophanie de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le vivificateur ou le vivifiant Zopion. Zopion, qu'on a dans le texte grec du symbole de la foi, ne veut pas dire donateur de vie. Là aussi, c'est vraiment insuffisant. L'Esprit Saint n'est pas celui qui donne la vie comme un objet. Non, il est le vivifiant. C'est tout à fait autre chose. Il est la vie qui vivifie. Il est la chaleur qui réchauffe. Il est le feu qui enflamme. Il est l'eau qui mouille. Il est, je ne sais pas, l'huile qui oint. Et, il ne donne pas la vie. Non, arrêtez. Donateur de vie. Excusez-moi. Alors, non. Ça fait vraiment papa cadeau. Non. Non, il est le zoopion, c'est qui fait vivre, qui rend vivant. Et donc il rend vivant et il vivifie, par exemple, il vivifie celui qui est descendu au royaume des morts, c'est-à-dire la vérité en personne. La résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le phénomène, par exemple, de vivification de la vérité. C'est ça qui est quelque chose de sensationnel. Or, tous nos sacrements doivent avoir cette dimension-là pour être crédible, pour être acceptable, pour être pertinent, pour être éloquent et pour être à leur tour vivifiant. Si vous voulez, nos frères et sœurs qui vivent dans l'Église, qui viennent demander le baptême de leur enfant, qui viennent demander le mariage, le couronnement pour eux-mêmes, toutes ces personnes-là, ils veulent la vie, vous voyez, ils veulent la vérité, mais ils veulent être vivifiés. Il ne suffit pas de... La vérité ne suffit pas. Mais la vie non plus. Un monde qui serait uniquement pneumato-centrique et pneumato-moniste est un monde faux. Vous voyez, l'Église n'a jamais été... Il y a des hérésies comme ça. eu des hérésies. Je crois que le montanisme, c'est un petit peu ça. Enfin, bon, je connais pas tout, mais il y a eu des hérésies charismatiques comme ça, où il n'y avait que l'esprit, puis la vérité devenait très secondaire. Enfin, j'ai des amis comme ça, hein, celui qui prônent un christianisme de l'esprit, mais qui sont très inexacts dans le domaine de la vérité. Très, très, très inexacts, qui acceptent des erreurs dogmatiques grosses comme eux. Ils sont très négligents dans le domaine dogmatique, dans le domaine de la vérité, mais alors, ils se sont investis dans le charismatisme. Alors qu'en fait, l'expérience chrétienne, elle est double, elle est dogmatique et charismatique. Dogmatique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur la vérité, sur la révélation, sur ce qui est vrai, sur ce qui est fondé, qui a été scellé dans le sang par la vérité elle-même. C'est une vérité qui est saignée pour elle-même, qui est saignée pour être vraie, qui est saignée pour être crédible, qui est saignée pour être véridique, vérifiée, qui s'est vérifiée elle-même. C'est étonnant, ça, que la vérité puisse se vérifier elle-même en versant son propre sang. C'est magnifique. Mais cette vérité, elle va avec donc toute cette puissance charismatique de l'Église d'Israël qu'on voit de tout temps. Regardez les prophètes, les grands Isaïe, les grands Ézéchiel, les grands, je ne sais plus qui, l'autre. C'était des gens qui disaient la vérité, mais ils la disaient avec quel feu, quelle flamme, quel enthousiasme, quelle force spirituelle, quelle inspiration. Oui, ça a toujours été ça. C'est quelque chose qui est fondamentalement biblique. Hein. La conjonction, elle a cherché, c'est pas seulement un équilibre, parce qu'un équilibre, c'est un peu statique, oui. C'est une conjonction dynamique, au contraire, la conjonction de la vérité et de la grâce, la conjonction de l'Esprit et du Verbe, la conjonction du Fils et de l'Esprit. Oui. Et donc nos sacrements, et particulièrement la façon de célébrer les sacrements, doivent être une manifestation de cela. Et quand je dis la façon de célébrer, j'insiste là-dessus, hein. Je dis ça pour moi-même, pour commencer, et pour mes frères, mes collègues, et frères et concélébrants, la façon de célébrer un baptême, un mariage et la liturgie elle-même compte énormément. Parce qu'il appartient justement à celui qui est le mystagogue, et l'évêque quand même, ou éventuellement donc le prêtre en son absence, il appartient justement au mystagogue de faire apparaître ces deux dimensions. Et on le voit bien, si vous voulez, c'est pas, il ne faut quand même pas avoir honte de dire les choses. Moi, je me souviens très bien d'avoir, depuis que je suis prêtre, d'avoir célébré avec les uns, avec les autres, et qu'il y avait des différences entre célébrer avec tel évêque ou tel prêtre, ou avec tel autre évêque et tel autre prêtre, il y avait des différences. Alors, quelles sont ces différences? Et bien moi, dans ma façon, autant que je me souvienne, surtout quand j'étais plus jeune prêtre, je me souviens très bien d'avoir été à côté de tel archevêque et d'avoir été impressionné par le fait que non seulement ce qu'il faisait était vrai, parce qu'il disait quand même les paroles de la liturgie telles qu'elles sont dans les livres, telles qu'il faut les avoir dites, mais il disait ça avec une puissance, avec une douceur, avec une humilité, avec un amour, avec une foi. C'est qu'il y avait des manifestations, des dons du Saint-Esprit très 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 importants dans la façon de célébrer de cet archevêque, vous voyez. Et je me suis trouvé à côté d'autres hiérarques qui célébraient très, très bien, très proprement, ils disaient tous les prières qu'il fallait avoir dites, mais ils ne regardaient pas leur montre, si vous voulez, mais on ne sentait pas, je me trompe peut-être, c'est très subjectif, vous allez me dire ça encore, mais du point de vue du ressenti, justement, je ne ressentais pas un très grand investissement spirituel de leur part, oui. Et alors qu'à l'inverse, je me souviens d'avoir vu dans un monastère, je voudrais nommer les gens et les monastères, mais là, je pense que c'est vraiment incorrect de le faire, mais je me souviens d'un monastère où j'ai beaucoup été, et je me souviens d'un diacre qui maintenant est prêtre hier au moine maintenant, et la façon dont ce diacre encensait les icônes pendant la liturgie, pas au début de la liturgie, mais je m'en souviens encore. Tellement, si vous voulez, il y avait une telle grâce, une telle... C'était tellement plein du Saint-Esprit quand il faisait ça, vous voyez. Alors c'est un geste qui peut être fait mécaniquement, l'encensement, ça peut être vraiment formel, bon, l'encens, Donc je veux dire, j'en amène à ça. Je pense que la conjonction de l'esprit et de la vérité, ça vient, alors c'est beaucoup, c'est quelque chose qui se rapporte beaucoup à la conscience du célébrant. Que ce célébrant soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre, qu'il soit un membre du peuple, parce que le peuple est également un célébrant, j'en profite pour le redire, eh bien ça compte énormément. Moi je vois parmi le peuple, des femmes, des enfants, des hommes qui sont là, qui vraiment ont une conscience de la liturgie, dans la façon de faire le signe de croix. Moi, j'ai vu des fidèles, je ne sais pas, comme vous et moi, pas plus simple que moi en tout cas, j'ai vu vénérer les icônes avec quelle tendresse, quelle conscience, quelle sincérité. Je les ai vus allumer leur cierge, je les ai vus apporter leur diptyque, je les ai vu demander la bénédiction au prêtre, je les ai vus s'approcher de la Sainte Communion. C'était quelque chose de magnifique, vous voyez, il y avait un rayonnement spirituel, charismatique à travers la vérité, vous voyez. Cette vérité qui est pleine du Saint-Esprit. On dit ça du Christ, on dit que le Christ était plein de grâce et de vérité, mais on dit aussi de lui qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et de tout temps, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui au moment du baptême, faire attention, hein. Il est reposé sur lui de toute éternité, de façon atemporelle. Mais ça a été manifesté à ce moment-là, ce qui s'est passé le jour du baptême du Christ, c'est qu'il a été manifesté que l'Esprit, de façon atemporelle, repose sur le Fils. C'est-à-dire que la vérité du Père, de façon atemporelle, est toujours, le mot toujours étant abusif, est de façon atemporelle, couronnée par l'Esprit, habitée par l'Esprit, pneumatisée complètement. Vous voyez. Il n'y a pas eu un moment, c'est très important du point de vue de la contemplation trinitaire, il n'y a pas un moment où le Verbe du Père aurait été sans l'Esprit, où la vérité du Père n'aurait pas été pneumatisée complètement, vous voyez. Quand le Père profère la vérité, quand il profère son Fils, j'aime bien cette expression de proférer, une belle expression en français, il la profère avec son souffle, il y met son souffle, hein. Vous voyez. Oui, on va redire ça, le Père profère le Verbe en y mettant tout son souffle, c'est-à-dire l'Esprit. Et c'est pour ça que cette conjonction du Verbe et de l'Esprit, ou de la vérité et de l'Esprit, si vous préférez, cette conjonction, elle est originelle, pas seulement originale, elle est originelle, principielle, et plus que ça, elle est atemporelle. Elle est atemporelle, ce n'est pas seulement en créant le monde, et donc en créant le temps, et dans le principe, que Dieu a manifesté la conjonction du Verbe et de l'Esprit, mais c'est de façon atemporelle. La création et l'action créatrice de Dieu n'a été qu'une manifestation de ce qui existe en Dieu de façon atemporelle. Ça, c'est comme ça que nous interprétons les paroles de la Bible. Quand Dieu dit faisons, le fameux conseil divin, mais cette communion des personnes divines, elle n'est pas arrivée à ce moment-là, vous voyez. Elle s'est manifestée à ce moment-là. La création, le façonnement, le modelage de l'être humain était pour Dieu l'œuvre d'une révélation de lui-même, une révélation trinitaire de lui-même. Bon, donc vous voyez, ces dimensions-là, vous essayez de vous en rappeler. Je dirais que ça va aussi, je conclue sur ce point, parce qu'il me reste un petit peu de temps après, ça va, si vous voulez, avec un autre thème qui est du même ordre, qui est ce qu'on pourrait appeler sacrement et amour. Sacrement et amour. Et donc ça, c'est quand je dis vérité et esprit, quand je dis consécration et sanctification, oui, chaque fois je parle un peu de la même chose, c'est-à-dire il y a ce qui est du domaine de la vérité et ce qui est du domaine de l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne soit pas vérité. Si, l'esprit est vérité aussi, bien sûr, mais l'hypostase de la vérité, c'est le Verbe. Et l'hypostase du souffle, c'est l'esprit. Bon, donc, on doit parler aussi de sacrement et amour. Je pense que ça dit un petit peu la même... c'est un peu le même enseignement. Parce que l'amour est justement la manifestation de l'esprit par excellence, vous voyez. Alors, bien sûr, l'esprit n'a pas le monopole de l'amour. Le Père est amour, le Fils est amour et l'Esprit est amour. Mais d'une certaine façon, L'esprit est la communication de l'amour. L'esprit, c'est celui, c'est pas seulement celui qui aime, parce que le Père aime, le Fils manifeste cet amour du Père, on est d'accord. Mais l'esprit, lui, c'est très intéressant, il fait aimer. Il fait aimer. L'esprit est celui, c'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit de communion, l'esprit est celui qui communique l'amour. Il fait aimer le Fils, il fait aimer le Père, il fait aimer la vérité, il fait aimer les gens, il fait aimer les hommes, il fait aimer les créatures. L'esprit est celui qui nous rend émerveillés de la beauté du monde, ou de la beauté des êtres humains, de la beauté de Dieu. C'est par l'esprit que nous ressentons, pour revenir au ressentir, que nous ressentons une grande joie, un grand émerveillement à entendre les paroles de l'Évangile, à regarder les icônes et à participer à la célébration des sacrements. Donc imaginez un baptême où tous les gens ressentiraient un grand amour pour ce qui est en train de se faire et bien sûr un grand amour les uns pour les autres, mais un grand amour pour le Christ, un grand amour pour l'Église, les gens qui seraient, tous les parents qui sont là, les parrains, qui seraient remplis d'un tel amour, vous voyez, et bien on aurait à ce moment-là une manifestation quand même de l'Esprit. Vous voyez. L'Esprit est descendu, puisque on a ce sentiment d'amour très fort. Pas seulement, et l'amour ce n'est pas un sentiment, hein, c'est une énergie principalement. Bien sûr, les gens s'aiment bien, les parents aiment leurs enfants, on s'aime, les amis qui sont venus pour la famille, on les aime, d'accord, bon. Mais on parle d'autre chose, on parle d'un amour qui est une chaleur, une disposition à s'émerveiller d'autrui. Je crois que c'est ça l'amour véritable, c'est cette disposition à s'émerveiller d'autrui. Et du coup, à cause de l'émerveillement qu'on éprouve pour cette personne, on ferait tout pour elle. On donnerait tout pour cette personne, alors que c'était quelqu'un qu'on n'aimait pas il y a quelques instants. Mais par la grâce du Saint-Esprit, il nous a donné la capacité d'aimer même nos ennemis, c'est de nous émerveiller d'eux, de leur beauté, de la présence de l'image en eux, du fait qu'ils sont aimés de Dieu, du fait que Dieu les aime, de nous émerveiller qu'ils sont aimés de Dieu, et c'est extraordinaire. C'est pourtant, ce sont les ennemis. Moi, je ne les aime pas. Ils ne m'aiment pas, au contraire. Ils me font les pires ennuis. Mais l'Esprit Saint me montre qu'ils sont aimés de Dieu, que Dieu est mort sur la croix pour eux, etc., etc., etc. Et donc je peux m'émerveiller de l'amour que Dieu a pour eux. Et cet émerveillement est contagieux, il me met dans une contagion de l'amour. On finit par aimer ses ennemis simplement parce que Dieu les aime. Non pas par raisonnement humain, mais par contagion de l'amour, par communication de l'amour. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. L'Esprit est celui qui fait aimer. Bon, donc vous voyez, tous ces points-là sont des points que je trouve personnellement extraordinairement intéressants et passionnants. Et pour ça, je voudrais que ne pas perdre le fil de ma contemplation, disons. Et chaque fois qu'on abordera tel ou tel sacrement de l'Église, et penser à retrouver tout cela. J'espère que je prie Dieu de me garder dans le souvenir de ces choses en parlant des sacrements. Et alors, donc, je voudrais quand même commencer, j'ai prévu de commencer un peu plus tôt, mais il n'y a pas rien, il nous reste quand même le temps d'introduire un petit peu cet exemple, c'est pas seulement un exemple, le phénomène du baptême. Le baptême. Alors, on me dit, on commence par le baptême, parce que c'est le premier des sacrements, disent tous les livres. C'est pas uniquement pour des raisons scolaires qu'on parle du baptême avant toute autre expérience sacramentelle. C'est parce qu'en fait, c'est le type même des formes de bénédiction beaucoup plus simples, la bénédiction des maisons, etc. etc. Tout ça, ça ne c'est très important de bénir les maisons, hein, je n'ai pas le contraire, mais ça n'a de réalité que parce qu'existe le mystère du baptême. Et on le voit bien, mais vous savez, je n'invente pas, hein, moi je regarde simplement ce qui se passe. On voit très bien que c'est le baptême du Christ, et donc le mystère du baptême, qui est le début de toute autre action sacramentelle accomplie par le Christ. On a commencé par le baptême. Alors ici, donc, je suis obligé de vous rappeler qu'on ne dit pas le baptême. On dit le Saint-Baptême. Saint-Baptême. Et justement, je pense à ça parce que c'est le père Justine Popovitch, dans le livre que je vous ai cité ici. Donc, je ne l'ai pas apporté parce que c'est trop lourd à trimballer. Son livre qui s'appelle « Philosophie orthodoxe de la vérité », je vous l'ai dit, le tome 5, page 233. Mais c'est dans les pages suivantes, je crois que c'est page 240, je vois. Il dit « Tous les sacrements sont saints ». Alors en fait, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les sacrements sont saints, parce que, mais je crois qu'il ne le dit pas très très clairement comme ça, mais il dit tous les sacrements sont saints parce qu'ils se rapportent tous à la personne du Christ agissante dans l'Église et dans le monde, au milieu de ceux qui croient en lui et pour ceux qui coopèrent avec lui, qui sont en synergie avec lui. Donc là, tous les sacrements sont saints parce que le Christ est saint, parce que le Saint de Dieu a sanctifié aussi l'humanité en se faisant homme. Tous les sacrements sont saints à cause de l'incarnation, à cause du devenir homme de Dieu, à cause de l'humanisation de Dieu qui a été simultanément, comme vous le savez, une déification de l'homme. Donc la base des sacrements, c'est aussi cela, c'est principalement l'incarnation. C'est impossible c'est inconcevable d'avoir n'importe quel sacrement auquel on veut penser s'il n'y a pas l'incarnation. Les gestes même, les signes eux-mêmes, cette relation entre le visible et l'invisible dont parle M. Larcher dans son livre, ça n'a de fondement que par l'incarnation. Si les signes visibles sont des signes de l'invisible, c'est à cause de l'incarnation. Le Christ invisiblement présent parmi nous, mais il se rend visible à travers les gestes, il se rend audible à travers les paroles, il se rend visible à travers les signes et les gestes, il se rend présent par la grâce du Saint-Esprit dans n'importe quel acte. Donc on ne dit pas le baptême, on dit le Saint-Baptême, comme on devrait dire le Saint, on dit la Sainte Eucharistie quand même, je pense, le Saint-Couronnement, le Saint... Je sais pas, chaque fois qu'on parle d'un sacrement, on devrait penser à dire qu'elle est sainte, même l'ordination, la chirotonie, on devrait dire la sainte chirotonie, puisque dans cette action de consécration justement d'un homme au service de l'Église, il y a une présence de celui qui est le sanctificateur et le consécrateur par excellence, c'est-à-dire le Christ, le grand pontife. Donc on parle du Saint-Baptême. Et vous savez également que le mot baptême a un sens précis, si on le prend dans son étymologie grecque, je vous fais l'injure, pardon, de vous rappeler ça, parce que vous savez parfaitement, mais baptizo veut dire immerger. Alors en roumain, vous avez un très beau mot qui est scufundere, je crois, ascufunda, parce que je ne sais pas quel est l'infinitif, mais c'est un très beau mot en roumain, et c'est ça que veut dire baptême. Botez, on dit sfuntul botez. Ah, c'est bien, mais botez, ou l'insiamlos, ou fundere. C'est-à-dire immersion, plongée. Alors c'est pour ça que les gens qui s'amusaient à traduire, au lieu de dire tout le temps Saint Jean-Baptiste, on disait, on va l'appeler Saint Jean l'immergeur ou Saint Jean le plongeur. Mais Saint Jean le plongeur, ça faisait un peu café parisien. Alors on a renoncé à cette appellation qui ne marquait pas assez le respect qu'on a pour le précurseur. Mais donc, vous pensez à ça, c'est important. Plonger, mais dans quoi? Dans quoi? On est dans l'eau, ah oui, d'accord, dans l'eau. Pas dans n'importe quelle eau, s'il vous plaît, une eau qui est déjà elle-même baptisée. Alors ça, on y reviendra, mais c'est très important. L'eau est baptisée, c'est que c'est comme si on lavait de l'eau. J'ai un ami qui travaille dans une compagnie des eaux, alors, vous savez, ils ont des centrales comme ça pour la dépuration. Alors je dis, mais ça faut, tu laves l'eau. Ah ben oui, il lave l'eau. Donc l'eau a d'abord été elle-même consacrée, purifiée de ce qui n'était pas elle, de la non-eau, pour qu'il n'y ait que de l'eau, purifiée et sanctifiée, c'est-à-dire complètement assimilée à Dieu, ce qui pose un problème. Il y a des gens qui me disent, mais alors, s'il y a une sanctification de la matière, ça veut dire que vous êtes panthéiste, alors. Bon, attendez, monsieur, ne quittez pas, je reviens tout de suite. Non, on n'est pas panthéiste. Ça ressemble à des panthéismes, parce qu'à la rigueur, les gens vous diraient, oui, la déification de l'homme, bon, ça peut passer, mais la déification des éléments, là, c'est un peu plus difficile à accepter. Vous êtes panthéiste, monsieur. Ça, je vois très bien ça, d'être panthéiste. Et en fait, nous, on dit que non. On dit qu'on n'est pas panthéiste, on est panenthéiste. C'est-à-dire que nous confessons la présence de Dieu en tout. C'est ce que nous disons d'ailleurs dans la prière au Saint-Esprit. O pantachou paron, toi qui es partout présent. Si savros ton agathon, que pantachou paron. Et donc c'est cette omniprésence qui va jusqu'à sanctifier la matière. Mais c'est très fort, ça. L'autre jour, nous avons été avec une paroisse vénérer les reliques d'un saint. Alors, il y avait des gens qui étaient très étonnés de voir qu'on se prosternait, mais qu'après ça, on embrassait les reliques. Alors, ils nous ont pris pour des fous, évidemment, ça leur paraissait complètement délirant. Des gens qui embrassent des bouddhos, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'était pas n'importe quoi. Parce que justement, nous vénérons le corps des saints, des ossements, la chair des saints, ou quelquefois des vêtements qui leur ont appartenu, etc. Parce qu'en fait, nous avons cette conscience, ce n'est pas une croyance simplement, ce n'est pas de la crédulité comme on croit au Père Noël, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. C'est une conscience. Une conscience que la grâce du Saint-Esprit a modifié profondément cette matière, elle a sanctifié profondément. Et que cette matière, quand on l'embrasse Dieu qui est présent, on embrasse la grâce du Saint-Esprit qui est dedans. Vous voyez ? Donc c'est très important, vous voyez, cette histoire de sanctification. Donc, effectivement, le baptême, c'est immerger dans une eau elle-même, j'allais dire immergée. D'une certaine façon, l'eau du baptême, elle est généralement, c'est de l'eau qui est elle-même baptisée. Il a fallu baptiser le Jourdain pour qu'il puisse être le lieu du baptême. Et il a été baptisé dans quoi, le Jourdain? Il a été baptisé dans l'Esprit. C'est très intéressant, ça. C'est pour ça que j'y reviendrai, mais j'espère pouvoir reprendre les grandes prières. On n'aura peut-être pas le temps. Mais les grandes prières de consécration de l'eau baptismale montrent qu'en fait, que l'eau est baptisée. Bon, alors c'est un peu, vous savez, les astuces, on parle de l'arroseur arrosé. Bon, ici, c'est le baptiseur baptisé. L'eau, pour pouvoir baptiser, l'eau a besoin de l'être. Et donc, elle est elle-même immergée dans la grâce de Dieu. Elle est plongée dans l'Esprit. Elle est plongée dans l'Esprit. C'est ce qui est très beau, d'ailleurs, là. Ça se voit dans le baptême du Christ. On voit très bien que l'eau du Jourdain est consacrée et elle est elle-même baptisée. Mais oui, qu'est-ce que je vous dis? Elle est baptisée par l'Esprit Saint qui arrive sous forme de colombe. Alors, bien sûr, il repose sur le Verbe. Mais il ne repose pas que sur le Verbe, il repose sur le Verbe et sur l'ensemble de la création qui est ici présente, et particulièrement sur l'eau du Jourdain, qui à ce moment-là d'ailleurs ressent quelque chose aussi. On va reparler du ressenti, décidément ce soir on en aura parlé. L'eau du Jourdain est tellement elle-même dans le ressenti, elle-même comme créature, qu'elle retourne en arrière. Il y a ici un bouillonnement, il y a un bouillonnement de l'eau qui atteste justement qu'elle est elle-même immergée, et immergée pas dans l'eau, elle est immergée dans l'Esprit, immergée dans le feu. L'eau, c'est de l'eau plongée dans du feu, c'est de l'eau immergée dans le feu du Saint-Esprit. C'est magnifique. Donc vous voyez, la théologie des sacrements, c'est très très profond, c'est vraiment contempler la réalité des mystères, la réalité de ce qui se passe, de l'événement, C'est très intéressant. Donc voilà, le baptême, donc ça veut dire ça. Alors, évidemment, quand les gens viennent à l'église, ils disent voilà, je voudrais baptiser mon gamin la semaine prochaine parce qu'on a de la famille qui arrive de Roumanie, ce qui est généralement le cas. Ils ne pensent pas à tout ça, bien sûr. Alors, je ne sais pas, donc les prêtres sont chargés d'avoir une activité catéchétique et pastorale, et donc d'essayer de quand même partager avec ces personnes qui sont toujours des bonnes personnes, des personnes de bonne foi, des gens gentils, tout, et partager un peu avec eux un peu de cette réalité, les mettre un petit peu au parfum. Alors vous savez, peut-être baptême, c'est très 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 intéressant, c'est très profond. Vous savez ce que veut dire le mot, et puis que le mot, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. On essaye de transmettre un peu de ce, pas seulement du sens, si vous voulez, mais du sentiment de la présence dans les sacrements. Pas seulement accomplir les sacrements parce que les gens sont là et qu'ils vont repartir, qu'ils ont leur billet d'avion. Ça. Et le formalisme est vraiment l'ennemi numéro un des sacrements. Mais je dis pas qu'on fait ça. Je dis ça qu'il faut s'en garder, qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai, c'est le confort. Les gens téléphonent. On dit, voilà, on va faire un baptême samedi prochain. C'est déjà fixé. On a déjà, parce que la famille arrive de Roumanie, ils repartent le dimanche, ils ont un billet d'avion. Donc, le prêtre peut dire, bon, ben d'accord, j'arrive, je serai là à 15h, on fait le baptême. Puis, mais peut-être que le prêtre, puisque le prêtre est le mystagogue, justement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le prêtre, l'évêque ou le diacre qui peuvent nous aider, hein, faire aider par les diacres, un ministère très important, en tant que mystagogue, il doit pouvoir préparer une célébration qui soit celle du Verbe et de l'Esprit, qui soit une célébration en vérité et en esprit. Il doit ça. C'est notre responsabilité de prêtre, d'évêque, de diacre, de mystagogue, de gérer la célébration du sacrement pour qu'elle soit en esprit et en vérité. Alors, donc, c'est ça le baptême. Et alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Je parle de ça parce qu'en fait, il me reste 5 minutes, je vais parler que de ça. Il m'est arrivé un événement très, 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 très bouleversant, pour moi en tout cas. Et surtout qu'un ami à moi est venu il y a plusieurs mois à l'église et il me dit j'aurais dû parler. Sûr, on va parler, bon. Et il me dit, ben voilà, j'ai. C'est un garçon qui n'est pas tout jeune, et il a, je crois, peut-être 60 ans, je ne sais pas. Et il me dit, voilà, j'ai retrouvé une ancienne amie d'enfance, une personne que j'ai connue autrefois, on n'a jamais été très très intime, on s'est toujours bien entendu, et on s'est retrouvé vraiment bien, elle a à peu près mon âge, et. Vraiment, on envisage de se marier. Ce garçon n'a jamais été marié, donc sur le tard, comme ça, il retrouve une personne qu'il a connue, et ils ont ce projet de mariage. Bon, ben, je lui dis, écoute, a priori, il n'y a pas de problème, il faut qu'on se voit tous les trois, on va préparer ça ensemble, pourquoi pas. Il me dit, oui, mais alors, le cas particulier, c'est que cette personne est juive, enfin, d'origine juive en tout cas, elle n'est pas juive pratiquant, mais d'une famille juive, et donc elle n'est pas baptisée. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, on va voir. Bah, écoutez, venez toujours, qu'on discute, qu'on fasse connaissance. Je ne sais pas, moi, peut-être cette femme, peut-être que Dieu a un projet pour elle, ça ne me regarde pas. Je suis là pour vous accueillir, je suis là pour préparer une célébration, je suis là pour vous transmettre les éléments de l'enseignement de l'Église. Enfin, je ne suis pas là pour prendre la place de Dieu, hein, donc on verra bien. Bon. Alors, ils sont venus, le dimanche suivant, enfin, notre dimanche, il est venu donc avec cette dame, très sympathique. Un petit peu timide, et puis moi je faisais très attention, parce que comme je savais qu'elle est d'une famille juive, je voulais pas être, pas l'offenser, je voulais pas lui manquer de respect, vous voyez, d'en respecter, je voulais être considéré comme athée, une athée d'origine juive. Bon, ben, j'ai beaucoup de respect pour les athées quand ils sont athées de bonne foi, mais bon, donc je voulais respecter cette dame, on a quand même parlé, tous les trois, du mariage, l'Église, et j'ai dit à un moment à cette dame, bon, on ne peut pas vous obliger à demander le baptême, enfin, c'est vrai que si vous demandez le baptême, on pourrait célébrer le couronnement, alors autrement on ne peut pas, on fera autrement, on fera un office d'action de grâce, puis c'est bon. Et puis c'est tout, mais je n'ai pas... Et puis elle est restée, elle a assisté à toute la liturgie du dimanche, Et l'après-midi, on avait un pèlerinage dans la région. Elle est venue avec nous au pèlerinage, elle a assisté jusqu'au bout. Et puis elle est partie, on s'est embrassé, je lui ai dit à bientôt, etc. Mais sans penser à autre chose, je ne m'étais pas rendu compte qu'il s'était passé un événement très grand pour elle. Et cette semaine, il y a quelques jours, je reçois un courriel dans lequel cette personne me dit « Je suis une telle, l'ami d'un tel, on est venu vous voir l'autre jour ». Et ma résolution est ferme, je demande à être baptisé. Donc j'étais très 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 impressionné, parce que moi je n'avais rien fait pour la convaincre, on sait bien, c'est vraiment pas une chose à faire. Mais son ami, son fiancé, est très respectueux d'elle aussi. Et bon, en plus, je leur avais ouvert tout à fait la possibilité. J'avais dit, écoutez, on ne va pas obliger personne à quoi que ce soit, vous pouvez toujours vous marier civilement, puis venez à l'église. Un office d'action de grâce à l'église, ce sera sympa, ce ne sera pas le mariage qu'on ne peut pas, mais ce sera un moment important pour vous. Il y a quand même une forme de bénédiction de Dieu pour votre couple et votre famille, et puis on verra bien ce qui se passe après. Donc, c'est vrai, je n'avais rien fait de plus. Est-ce que j'ai prié pour eux? Oui, j'ai prié pour eux un peu, mais pas beaucoup. Je dirais que la quantité n'y est pour rien, mais si j'ai prié quand même pour eux, je les ai nommés tous les deux, plusieurs fois, oui. Et arrive ça. C'est-à-dire que, ça j'en parle parce que c'est important pour le baptême, justement, et pour les sacrements. Les sacrements, si vous voulez, ce ne sont pas des actions humaines. Ce ne sont pas des rites humains qu'organisent les humains pour essayer de mettre un petit peu de religion dans la société. Vous voyez. Pas ça du tout. Les sacrements manifestent l'action de Dieu dans son monde. Et c'est ça qui est intéressant. L'exemple que je donne, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, moi, en tant que prêtre, je suis là pour effectivement officier dans les meilleures conditions. Bon, mais Dieu agit dans ce monde. Il agit par sa parole, il agit par son esprit, et c'est lui qui est à l'origine de toute vie sacramentale. Donc, c'est lui qui vient chercher les gens pour les amener au Christ. C'est lui qui leur fait aimer. Elle m'a écrit en me disant qu'elle avait été bouleversée par la liturgie, qu'elle avait été bouleversée par l'évangile, qu'elle avait été bouleversée par le pèlerinage. Moi, je m'étais aperçu de rien. Elle avait vraiment pas l'air bouleversée. Personne très discrète. Très, très modeste, très réservée. Oh, je n'ai jamais vu qu'elle était bouleversée, moi. Elle m'a dit si, qu'elle était bouleversée comme tout. Donc, ce bouleversement de son âme, de son cœur, de son esprit, de toute sa vie, il s'était quand même produit par l'action du Saint-Esprit au cours de moments de vérité. Elle avait été frappée justement par. C'est ça qui est beau, c'est que c'était quand même une espèce de vérité, au sens où ce jour-là, oui, que je vous dise tout, l'évangile qui était lu dans la divinité au juste, c'était l'évangile. Dans lequel le Christ accueille un jeune homme riche, et lui dit, est-ce que tu as appliqué tous les commandements? Le garçon dit, oui, oui, oui. Et le Christ lui dit, bah, écoute, si c'est bon, maintenant, bah, tu laisses tout et tu me suis, c'est pas un problème. Et le jeune homme s'en va en disant, oh là là, voilà, non, ça va, je suis pas prêt pour ça, il s'en va. Et donc, cette dame avait entendu cet évangile. Et je pense que dans son âme juive, elle a entendu que la première partie de l'évangile, c'était en fait le judaïsme. Voilà un garçon qui a été un bon juif. Il a accompli tous les commandements de la Torah. Et après ça, le Christ lui dit, bon, ben maintenant, tu viens et tu me suis. Et donc, il y a la deuxième partie de l'évangile, et ce « suis-moi », je pense qu'elle l'a ressenti comme adressée à elle-même. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça aussi, cette expérience de vérité et d'esprit conjugué, et qui est la... C'est pas la base du sacrement, c'est pas la matière du sacrement, mais c'est le contenu vivant et divin de nos actions sacramentelles. Voilà, donc je suis content de conclure là-dessus et de vous remercier, de souhaiter à tous beaucoup de joie dans la célébration de la Nativité du Sauveur et donc de pouvoir reprendre ces cours en 2018. Voilà, merci à tous. Que Dieu nous bénisse.